Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, depuis qu'elle vit sur une péniche, a une vie beaucoup plus saine. Christine Bravo.
Bonjour.
Une grosse tête qui va faire la connaissance de Christine Bravo, et cette fois c'est pas... oui, c'est lui qui risque de prendre. Max Boublil.
On se connaît déjà.
Une grosse tête dont les propos n'engagent que lui mais font rire tout le monde, Sébastien Thoer. Une grosse tête qui s'est plus cultivée en 50 grosses têtes qu'en 20 ans d'Air France, Jean-Phi Janssen.
Bonjour.
Une grosse tête dont les albums de chansons sont utilisés en agriculture pendant les périodes de sécheresse.
Oh, c'est dégueulasse.
Élie Semoun. Une grosse tête qu'il vaut mieux avoir en photo qu'à table, sauf qu'il rentre plus facilement à table que sur une photo. Bernard Mabie.
Bonjour. C'est misérable.
Ce mais tous ces hommes pour vous, Christine. Vous êtes la seule femme des grosses têtes.
Ben moi et...
Ah, on va se marrer aujourd'hui avec tous ces hétéros et ces catholiques.
Non, écoutez...
Ça va, Élie Semoun?
Ouais, ça va. Ça se
alors,
passe bien,
t'es pas cher pur, t'es venu quand même.
T'es très à l'aise, hein, au début, hein, quand t'as commencé l'émission, t'emmenais pas large, et puis là, ça y est.
Non,
hein.
Il a tout de suite été à l'aise.
Ouais. Oui. Ah, ouais.
C'est bien ça,
ah,
le problème.
Vous, on attend encore.
J'écoute... C'est parce que j'écoute pas les grosses têtes, excusez-moi.
Élie, c'est l'énergie du rien à perdre, il s'était fait virer de partout, il est arrivé.
Qu'est-ce qu'il a qui est madame, ça
se saoulait. Je parle de toi.
Ah d'accord, pardon, parce que je suis tellement habitué à ce que tu me critiques, parce que la dernière fois, t'as quand même dit que j'avais dragué ta femme alors que c'était faux.
Alors que tu l'as pas dragué, tu l'as niqué, ça n'a rien à voir, rien à voir.
Élie, il faut une petite, faut qu'on se tienne les coudes entre humoristes.
Attention, il faut qu'on se tienne les coudes.
Regarde ça comme ça, toi.
Monsieur Mabie, je suis désolé. Hein.
Ah bah, je suis très bien, moi, avec les jeunes.
Oh bah, les jeunes, vous avez vu l'âge des jeunes.
Ah bah, quand même, bah, par rapport à Mabie, on est
jeunes. Oui, puis rassurez-vous, Laurent, les jeunes sont dans le public.
Oh, le racoleur.
J'ai gagné 200 followers.
Mais alors, tous ces hommes, lequel vous séduit le plus, Christine?
Max.
Oh, c'est
oh là là, là
Christine,
quel
comme
beau.
Je t'aime.
Alors, il est beau. Il a un charme fou.
À la radio.
Un sourire.
Ta gueule, toi.
Il l'avait parce que, en fait, c'est moi qui l'ai sorti du caniveau. Et donc, je l'ai reçu dans une émission. Il était... Et pas très connu, il était timide, il était mignon, il se tordait les genoux.
Aucun
et tout.
Charisme, aucun talent.
Et bien,
c'est horrible à l'époque.
Et bien, justement, il avait un charisme incroyable, un sourire d'enfant, farceur, malicieux. Et j'ai eu une envie de lui, mais...
C'est, ouais, ouais, mais c'est marrant, c'est exactement ce que me disait sa femme quand je l'ai dragué.
Bon, en tout cas, on va essayer quand même de poser...
Merci, Christine. Merci, ma Christine. Je crois que je peux avouer dans cette émission que Christine est ma mère.
Une première citation. Je vais quand même tenter de poser des questions pendant cette émission pour M. Roland Grimaldi, qui habite Tournai, qui a dit « Si les femmes dirigeaient le monde, il n'y aurait plus de guerre. » Rien que des pays qui se feraient la gueule.
Frédéric Dard.
Jean-Yann, excellente réponse de Sébastien Thoen. Une citation maintenant pour Iman Mansouri, qui habite Urte dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a dit « Je ne bois jamais à outrance, je ne sais même pas où c'est. »
Gainsbourg.
Non.
Pierre Dac.
Non, mais pas
Minkowski.
Là.
Pierre Péchin.
Doris.
Francis Blanche.
Un des descendants de tout cela, mais mort tout de même, un de nos habitués.
Desproges.
Pierre Desproges, bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Judith Schmidt, qui habite Chaillet sous les Ormeaux en Vendée, qui a dit « Quand un homme et une femme se marient... » Ah, c'est peut-être le moment de l'annoncer, Christine, quand même. Non, on a le droit ou pas de l'annoncer?
D'annoncer quoi?
Ben, votre mariage.
Mais non.
Oui.
Il a dit oui, Jean-Jacques Bourdin.
Elle se marie avec qui?
T'as la chance.
Non, mais vous vous mariez au mois de juin prochain.
Au mois de juin.
Mais t'as alors... trouvé une robe blanche à ta taille.
Bah, elle ne parie pas en blanc
quand
même. Elle
va prendre la tienne.
Oh, elle a récupéré un de vos vieux mouchoirs.
Moi, je pense que c'est original.
Mais c'est avec votre marin, en tout cas, vous vous mariez avec
votre
marin.
Avec mon marin.
Ça, on a le droit de le dire.
C'est au bord de la mer, alors.
Alors, ouais. Pour Judith Schmidt, qui habite Chaillet sous les Ormeaux, qui a dit « Quand un homme et une femme se marient, ils ne font plus qu'un ». Mais le plus dur, c'est de savoir lequel.
Ah. Sacha Guitry.
Non.
Est-ce que c'est
non.
un Français qui a écrit?
Non, c'est pas un Français.
Vous dites un Américain.
Un Américain, non.
Un Anglais.
Un Britannique.
Alors,
oui.
On va dire Grande-Bretagne, enfin Royaume-Uni.
Bernard Shaw.
George Bernard Shaw. Oh. Encore une bonne réponse de Bernard Mabille. La suivante n'est pas sur le mariage, mais elle est pour vous quand même, Christine, et pour Christophe Chamfort, qui habite Massy, dans l'Essonne. Bah oui, oui. Qui a dit « Avant, je buvais pour connaître des gens. »
Vous m'aimez pas.
C'est génial. C'est génial. Elle est toute flattée. Et puis tout d'un coup, oh, c'est tellement gentil, Laurent, merci.
Oh, merci.
Eh bien, c'est
et ça fait 35 ans. Et je le vois toujours pas venir.
Avant, je buvais pour connaître des gens. Maintenant, je bois pour les oublier.
Ah, c'est Christine,
Gainsbourg.
Non, non, mais c'est une femme qui a dit ça.
Ah, Sagan. Ah.
Françoise Sagan, excellente réponse de Sébastien Thoen.
Ah ouais, ça fait bizarre, hein, Boublil, hein. Un comique qui a de la culture, ça fait bizarre d'en croiser, hein.
Pour Marc
me chauffe pas, Thoen, me chauffe pas, ça va arriver. Attends,
si, faut que ça bosse, faut que ça bosse.
Un comique, doucement, mais tu te considères comme un comique?
T'es comique?
Attends, excuse-moi, parce que attends, moi, ça fait plus
donc,
de 20 ans que je fais ça.
Dis donc, toi, t'es drôle sans Franck Dubosc, ou pas?
Quoi? J'ai même pas entendu.
Attends, je vais mettre mon
il
casque.
Il a dit, toi, t'es drôle sans Franck Dubosc.
Oh.
Non, mais ça fait plaisir, c'est une surprise, je m'y attendais pas, moi.
Ce qui est drôle, c'est qu'on pourrait dire la même chose à l'autre.
Bah oui.
Pour Marc Vastio, qui habite Saint-Fargeau, Pont-Thierry. Je suis fatigué. Je m'aperçois que dès que Christine Bravo revient, je sais pas pourquoi, alors qu'elle a été très.
Elle a rien dit.
Elle a rien dit, elle a été très gentille hier.
Bah ouais, elle a bu son bourbon, elle était cool.
Elle a été cultivée.
Non, mais franchement, ça a été cool, là.
Drôle,
dans les
lèvres, sympathique, cool. Souriante, j'ai rien à lui reprocher, mais à peine je la vois, elle me fatigue. C'est comme les matelas à mémoire de forme. Pour Marc Vastio, donc de Saint-Fargeau pour Thierry en Seine-et-Marne, qui a dit « Il est mort, mais alors pourquoi irais-je à son enterrement ?» Puisque je suis sûr qu'il n'ira pas au mien.
Ah, c'est génial.
C'est français. Ouais. Pierre Dac, David, c'est un Américain?
C'est très français. C'est un français.
Pierre Dac.
Brialy. Ce n'est pas un humoriste, même non. Si c'est quelqu'un qui avait de l'humour.
Alors, mais... c'est Elie Semoun?
Non, non.
C'est un acteur. C'est un acteur.
Excuse-moi,
on va laisser
c'est
passer.
Plus facile de t'attaquer.
Acteur, non.
Un auteur.
Un auteur, ouais. Un poète.
Jacques Prévert.
Prévert.
Jacques Prévert. Prévert. Ouais. Bonne réponse d'Elie Semoun. C'est Jacques Prévert. Une question pour Guillaume Canton, qui habite Bias dans le Lot-et-Garonne. Une question à propos de Jeanne Moreau, qui a joué une jeune infirmière au cinéma. Mais dans quel film?
Un film de Truffaut?
Un film de Truffaut, non.
C'est en noir et blanc?
Alors, le film devait être en noir et blanc à l'époque, oui, en 1952. Je n'ai vu que des photos en noir et blanc, c'est vrai.
Les liaisons dangereuses?
Les liaisons dangereuses, non.
C'est une adaptation d'un livre?
Alors, adaptation d'une pièce de théâtre. Ah. Et je peux même vous dire que celui qui avait le rôle principal à ses côtés, c'était un acteur que les plus jeunes ne connaissent pas, mais qui s'appelait Pierre Freinet.
Il est minuit, docteur Schweitzer.
Excellente bravo, réponse de bravo. Bernard Mabille. Eh oui.
Oui.
Pierre Freinet jouait le docteur Schweitzer.
Eh oui.
Il est minuit, docteur Schweitzer. C'était une pièce de théâtre au départ, écrite par Gilbert Sesbron. Il faut savoir que le docteur Schweitzer a réellement existé, hein, Albert Schweitzer. Il était parti au Gabon dans les années 50, où il avait créé une sorte
un dispensaire.
De dispensaire.
Le docteur Schweitzer, qui était l'oncle de Jean-Paul Sartre, je crois.
C'est pas vrai.
Oui, il était
ah oui, je l'ai connu d'ailleurs.
Oui.
Ah oui, puis Jean-Paul Sartre était marié avec Simone de Beauvoir, vous voyez, on peut tout faire. Hein. On peut briller quand
on
même.
On peut tout dire aussi.
Et Simone Bernard de Beauvoir qui a dit on n'est pas femme, on le devient. Ça, c'est ma devise à moi.
Et Bernard, tu l'as vu au cinéma ce film?
Je l'ai vu au catéchisme, alors ça remonte.
Ah, vous êtes allé au catéchisme,
oui,
Bernard?
Oui, oui, j'avais une maman catéchisme. Oui.
Oh là là, je vous vois en aube avec votre petite croix.
Ah oui,
ah oui, c'est ça, ma robe de mariée.
Et mon petit cierge.
Aujourd'hui, quand vous portez la croix, elle est à l'horizontale.
Oh.
Une question pour Jérôme de Coninck, maintenant, qui habite à Gagny dans l'Eure. Là, ça s'est passé au cours d'un repas. Il y a quelqu'un qui est aux côtés d'un grand écrivain, un grand auteur, et qui lui dit, dramaturge aussi, et qui lui dit « Monsieur, je sais parfaitement que vous n'aimez pas parler, mais j'ai fait le pari qu'au cours de ce repas, vous me direz au moins 4 mots. » Et l'écrivain en question répond « Vous avez perdu ».
Ah, c'est pas mal, ça.
Ah, génial.
Ah, c'est bien. Ah, oui, il y a une actroix. Une actroix, c'est pour ça.
Oh là là.
Voilà. Oui, c'est pas...
Oh. C'est pas
exact,
mal.
Monsieur Janssen.
C'est forcément une conversation de gens intelligents.
Mais qui est justement cet écrivain dramaturge qui a eu ce mot d'esprit de ne prononcer que 3 mots au lieu des 4 attendus?
Sacha Guitry.
Sacha Guitry.
Non.
Fedot.
Fedot, non.
Bon, alors, quelle
époque,
siècle,
quelle époque?
Ah ben, on est au XXe siècle.
Ouais. Ah ben, c'est Mathieu Delormeau.
il a fait un roman
alors,
extrêmement...
du théâtre, des romans...
Maurice Dion. Jean-Co,
non.
Un roman très populaire.
Oh, très populaire, beaucoup d'adaptations au cinéma de ses différents
Camus.
Romans, ou de ses pièces de théâtre.
Et pas Anouilh.
Anouilh, non. Prix Renaudot. Bon, alors, évidemment, pendant la guerre, il n'a pas été blanc-blanc, comme on dit.
Ah, Marcel Aimé.
Marcel Aimé, bonne réponse de Bernard Mabille. Une question historique pour James Olivier, qui habite Casté dans les Landes. Là encore, il s'agit de retrouver quelqu'un qui a eu de l'esprit aussi, puisque c'est un officier britannique qui lui a dit « Vous, les Français, vous vous battez pour l'argent. Nous, les Anglais, nous nous battons pour l'honneur. » Et ce Français lui a répondu « Monsieur, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas. »
Est-ce que c'est sous Napoléon ?
C'est quelqu'un qui est mort en 1827, donc vous voyez, bien après Napoléon. Mais comme il est né en 1773, ça peut être sous Napoléon quand même.
Talleyrand ?
Talleyrand, non.
La Rochefoucauld ?
La Rochefoucauld,
c'est
non.
C'est un militaire ?
Alors un militaire, ce n'est pas le mot.
Mercenaire, c'est un mercenaire ?
Mercenaire, oui, on peut dire ça, oui.
Il a été guillotiné ?
Ah non, il n'a pas été guillotiné.
Alors il était
fusillé, marin ? Fusillé ?
Fusillé non plus.
Non, non plus. Non.
Il était pas
il a été embastillé.
Embastillé, non.
Il est parti sur CNews. il est devenu policier.
Ah non, non, non.
Non.
Ah, mais vous le connaissez bien, attention. Hein.
Qui le connaît
ah, bah,
mieux.
Tous, enfin vous, surtout Christine. Vous qui êtes la reine des jupons de l'histoire.
Alors attendez, est-ce que c'est un oubliot?
Ah, un oubliot, non, non, non.
Un oublié, en tout cas.
Ah, ça, c'est sûr.
Est-ce qu'il a tué des gens?
Ah oui, ça, forcément, oui, oui.
Il a tué des gens?
Ah oui, oui, on
parle
pas.
Un tueur,
et pas qu'un peu, oui.
Il a une rue à Paris ?
Oh, des rues, des magasins.
Jean-Louis Uniclos ?
Jean-Louis Uniclos, non.
Prise unique !
Ah, vous allez finir par trouver.
Ludovic Zara !
Babette ! C'est Babette !
Ah, le roi Merlin !
Félix Potin !
Peut vous donner son prénom, peut-être ?
Oui, oui.
Parce qu'on ne connaît pas bien son prénom. Robert.
Ah, Robert Sandro ?
Non. Son
Et
nom de famille.
Robert U.
Non.
C'est magasin.
Ah oui, Super U.
Robert Super U. Jean-Charles Decathlon.
Non plus. Puisque c'est Robert qu'on vous dit.
Ah oui, c'est vrai. Robert iPhone. Robert Gévin. Robert Gévin.
Je vais me transformer en plata. Enrico Macias.
Il a une station de métro.
C'est dingue.
Robert Midas.
D'Artagnan. Paul Prébois. Plaza nous manque.
Bah ouais.
Est-ce qu'il a une station de métro ?
Non, pas de station de métro. Non.
Et est-ce qu'aujourd'hui...
Robert Mammouth ?
Mammouth, non.
Mais tais-toi, tu coupes
la parole. Est-ce qu'on peut jouer, nous aussi ? C'est ton émission, c'est fou, le retour.
Sur des hypermarchés.
Ah, mais l'autre,
laisse
quand elle
des
parle,
gens de culture, Antoine.
Excuse-moi, moi j'en ai
de
eu
culture.
Des émissions, connard.
Il a animé le journal du Hard.
Ouais, ça, peut-être ouais. Rock,
ça, ça a peut-être tenu plus longtemps que Troutrou.
Ouais, ouais. Ah, écoute, ça va.
Troutrou.
Le Kéno, elle nous fait la
main.
Troutrou. Troutrou.
La 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 la.
Alors... Et d'autres trous.
Autant le grand échiquier, c'était nul, mais alors trous.
C'est une belle, eh, c'est une belle séquence de radio.
Oui, oui, oui.
C'est un beau moment de vie qu'on vient de vivre.
Vous venez d'insulter toutes vos mères. Qui ont regardé Froufrou quand vous étiez
petit.
C'était le seul moment où elles avaient la paix.
La mienne, elle vous regardait pas, croyez-moi.
Ah bah oui, bah ça, ça. Ta mère,
elle... Est-ce qu'on peut avoir un indice sur le type de boutique?
Oui, ça va.
Oui, s'il vous plaît.
Quel genre d'article?
Non, c'est des magasins spécialisés tout de même, oui.
Le vieux campeur.
De bricolage.
Il vous reste 30 secondes. De bricolage, non.
Robert, Jacquet et Michel? Il y a une boutique, Jacquet et Michel, à Montparnasse.
Christophe.
Ce sont des montres.
Quoi?
C'est pas Robert Christophe, le...
Christophe, le... Non, non.
Ah, Rolex, Rolex.
Rolex.
Ce sont des montres.
Je pensais quand même qu'avec le prénom, vous trouveriez. Hein. J'ai un peu honte pour les grosses têtes du jour, mais je savais qu'aujourd'hui, on distribuerait des chèques RTL. Bah, et puis, on va même sûrement donner 100 euros de plus dans le public, parce qu'il y a quelqu'un qui...
Il y a bien un con qui va savoir.
Il y a quelqu'un qui va forcément répondre.
Il y a un monsieur.
Et voilà, déjà 300 euros de perdu.
Ah,
monsieur
oui.
Toen, regardez, il y a deux mains qui se lèvent. Trois mains même, oui. Quatre mains.
Je vais voir une nana qui a moins de 70 ans. Ça va, public? Alors présentez-vous, mademoiselle, est-ce que vous avez la bonne réponse? On vous écoute, allez-y.
Sophie de Paris, est-ce que ça serait Surcouf?
Robert Surcouf, excellente réponse.
Oh, merde.
Ah, mais ça n'existe plus.
On n'a pas cherché les corsaires.
Mais oui,
eh ben oui, vous n'avez pas cherché les corsaires.
Ça n'existe plus, Surcouf.
Ah ben ça n'existe plus, mais ça existait tout de
même. Oui.
Et j'ai habité rue Surcouf, je ne l'ai même pas trouvé.
Ah
bah,
tu vois. Est-ce qu'on ne serait pas lamentable, Laurent Ruquier?
C'était des magasins de...
d'informatique.
Informatique, Surcouf.
Ouais, exact.
Est-ce qu'on ne serait pas une belle équipe de merde, Laurent Ruquier?
Oui, mais on a un public formidable. Une question pour Jean-Luc Benedetto, qui habite Neuf-Chapelle, dans le Pas-de-Calais. Qu'est-ce que Louis XIV a fait il y a 330 ans, dont on parle encore cette semaine?
Versailles.
Non.
Il a cassé l'édit de Nantes.
Ah non,
et,
non,
et
non,
ça
non,
mais
non,
non,
non, non, non, non, non, c'est pas...
Eh ben non, moi je crois que c'est encore
pas
plus
finir
fou.
Ma phrase.
Il a inventé la Saint-Sébastien, c'est aujourd'hui. C'est
oh,
ma fête.
Bonne fête,
bah
Sébastien,
oui, c'est ma fête.
Alors.
C'est ma fête.
Comment
qui a des flèches?
Est-ce que c'était une décision à échelle nationale?
Oh, c'était pas une décision. Ça paraissait banal à l'époque.
Ah, le macaron.
Là, vraiment, c'est passé inaperçu il y a 330 ans. En revanche, aujourd'hui, c'est dans les journaux.
C'est un truc sanitaire, alors?
Sanitaire, non.
C'est un truc...
De santé publique.
C'est une association, il a créé une association.
Je vais vous aider un peu, parce que je sens qu'autrement, on va encore filer 300 balles.
Attendez.
Les habitants de la Selle-Saint-Cloud, dans les Yvelines, qui nous écoutent, sont forcément au courant.
Ah, il a inventé les vaisselatures.
C'est un rapport avec le parc de Saint-Cloud?
Non.
C'est pas en termes de travaux publics, genre des routes particulières?
Non, mais ça devrait pourtant intéresser M. Semoun, vous voyez.
Est-ce qu'il a fait une action pour sauver les abeilles?
Il n'a pas fait d'action pour sauver les abeilles.
Il a mis des arbres au bord des routes.
Non, mais on se rapproche.
Il a coupé les arbres au bord des routes.
Il a inventé les...
Il n'a rien inventé.
Il a
coupé les arbres au bord des routes.
Il a taillé.
Il a fait les routes à deux voies.
Ah oui.
Non, c'est rapport avec les arbres.
Non, c'est un rapport avec les arbres.
Il a bordé les routes avec des arbres.
Pas les arbres, non.
Un arbre. Je sais qu'il a planté un châtaignier. C'est le plus vieux châtaignier de France.
Pas le plus vieux, forcément, mais en tout cas...
Le plus gros.
Il a inventé la purée de châtaigne.
Non.
Les marrons qui
le plus haut. Les marrons qui
Il donne encore des châtaignes. Il donne encore des châtaignes.
Oui, moi aussi, je vais en donner encore des châtaignes.
Mais qu'est-ce qu'il a inventé, du coup? On a compris qu'il y a un châtaignier.
Il n'a rien inventé.
Il a planté ce châtaignier, qui est encore vivant.
Voilà. Qui est
et qui est
et qui est quoi fin.
Il est beau, il est beau.
Il est vivant et
produit. Il est beau. C'est un beau châtaignier qui fait du bien.
Non, mais...
Bonne réponse.
Merci.
De Max Boublil.
Avec moi, tous les nuls. J'appelle tous les incultes. J'appelle tous les nuls. Tous
c'est
ceux
le plus bel
d'études.
Arbre de France.
Voilà, il est beau.
Qui
est-ce qui a décidé?
Ah bah, tous les ans, on désigne le plus bel arbre de France. Et cette année, c'est un châtaignier de la Selle-Saint-Cloud qui a gagné. Et ce châtaignier a été planté par Louis XIV il y a 330 ans.
Et qui sera la plus belle
plante? Qui décide de ça, Laurent?
Ah bah, 7750 personnes qui ont voté pour ce châtaignier.
Georges Tron.
Sur 23 000 votants. En tout cas, effectivement, ce châtaignier vient de gagner le titre de plus bel arbre de France. Il a été planté il y a 330 ans.
Bravo.
Évidemment, on va quand même dire un mot sur Gaspard Ulliel. D'abord parce que moi, j'ai eu la chance de le croiser une ou deux fois et de lui dire que ça a quand même marqué tout le monde hier, la disparition de ce jeune acteur brillant et très beau. Et c'est vrai qu'on va avoir une grosse tête là au téléphone parce qu'on a une de nos grosses têtes qui a joué avec Gaspard Ulliel au théâtre il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Charlotte de Turckheim. Bonjour Charlotte.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Charlotte.
Et c'est vrai, on avait oublié ça. Je n'avais pas rappelé Michel Faux parce qu'on a eu Michel Faux au téléphone il y a quelques jours pour parler de Molière, mais c'est lui qui avait mis en scène cette pièce, Michel. C'était il y a pile 10 ans, une pièce que vous aviez jouée avec Michel Faux à la Comédie des Champs-Élysées et avec Gaspard Ulliel.
Oui, pour moi, c'est un souvenir en fait très joyeux parce que c'est la première fois que Gaspard faisait du théâtre. Et la dernière fois, d'ailleurs, j'espère que ce n'est pas à cause de Michel Faux et du moi, mais c'était très joyeux parce que, en fait, le jeune, c'était lui, et le vieux, c'était nous, mais on se comportait tellement comme des ados. Il nous regardait toujours d'une manière complètement interloquée. Et ce garçon était à la fois drôle et gentil. Enfin, en plus, moi, je devais le draguer. Ah. C'est bien que c'était un rôle très facile pour moi.
Oui, parce qu'il était très très beau.
Il était extrêmement beau et je devais le séduire. Je lui arrachais son pantalon et j'ai fait tout ça, mais vraiment avec beaucoup de facilité.
Combien de temps vous avez joué à la Comédie des Champs-Élysées? Ça s'appelait Que faire de Mr. Sloan, hein,
c'est ça? Que faire de Mr. Sloan, écoute, ça a duré 4 mois. Il était pro en plus, si vous voulez. Comme c'était la première fois qu'il faisait ça. Il débarquait dans un univers qu'il ne connaissait pas du tout, en fait.
Alors, je suis obligé de vous corriger. Il a joué au théâtre une fois après, hein, au Théâtre du Rond-Point, dans une pièce mise en scène par Martial Di Fonzobo, avec Marina Foïs, d'ailleurs, je crois.
Ah, bah, écoutez, tant mieux, parce que j'avais peur que...
Que ce soit sa seule expérience. Non, il a joué 2 fois au théâtre. Une fois avec vous, c'était la première fois, et avec Michel Faux. Et après, il est allé dans le théâtre public. Il a été dégoûté du privé après vous. Mais on voulait rendre hommage à Gaspard Ulliel. Merci.
Ah oui.
Merci, Charlotte, d'avoir dit ces gentils mots à propos de Gaspard Ulliel.
Ah oui, je l'adorais. Au revoir tout le monde. Je vous embrasse.
Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Bernard Mabie, Christine Bravo, Jean-Philippe Janssen, Sébastien Thoen, Élie Semoun et Max Boublil. Les questions littérature, autant dire que Géraldine Conduche a une chance pour un chèque RTL. Oh. Elle habite dans le Doubs, au pays de Clerval. Non, c'est vrai que Christine Bravo, quand même, il ne faut pas l'oublier, a été institutrice,
et
enseignante,
l'internet,
critique littéraire, animatrice d'émissions culturelles, jusqu'à sa déchéance.
Ça, c'est bon.
Drôle. Là, je vais vous demander de retrouver un écrivain qui est mort à l'âge de 40 ans dans un sanatorium. C'est jeune, 40 ans, évidemment, il avait la tuberculose et on ne la soignait pas à l'époque. De quel écrivain s'agit-il?
Balzac.
Balzac, non.
Radiguet?
Ah, Radiguet, non.
C'est un Français.
Écrit...
Français, non.
Ah. Il était russe.
C'est un russe.
Russe, non.
Portugais. Espagnol.
Espagnol, non.
Polonais.
Alors écoutez, c'est les frontières ont changé depuis.
Ah, c'est l'Est.
Oui, en tout cas, c'est l'Est. Oui.
Il a écrit beaucoup de livres.
Bah, il écrivait en langue allemande, en tout cas, oui.
Il était autrichien.
Ah, Thomas Mann.
Il était autrichien.
Il était juif.
Thomas Mann.
Pas tout à fait autrichien. Il était.
Rilke.
Rilke, non.
Zweig.
Zweig, non.
Non.
Ah, Goethe, non.
Lévi-Strauss?
Pardon?
Lévi-Strauss?
Lévi-Strauss, non.
Cohen. Ça finit en Stein. Ah, oui,
ah, ça finit pas en Stein.
Pouvez-vous nous donner un indice encore, s'il vous plaît?
Ah bah, je vous ai dit qu'il avait écrit en langue allemande, qu'il était mort à 40 ans de la tuberculose dans un sanatorium près de Vienne, qu'il a fait partie, on va dire, des écrivains majeurs du début du XXe siècle. Il était né en 1883 à Prague, vous voyez, et il est mort près de Vienne. Qu'est-ce que je peux vous dire?
Politique, il faisait pas d'œuvre politique.
Son nom était si célèbre, et est toujours si célèbre, qu'il est même devenu, sous forme de dérivé, un adjectif aujourd'hui.
Tolstoï?
Tolstoï, non. Non.
Dante. On dit Tolstoïen.
Dante, parce qu'on dit c'est dantesque.
Ah oui, mais c'est pas mal, ça, voyez. Ah, voyez. Sauf que Dante, c'est italien, voyez-vous.
Ah oui, je ne savais pas.
C'est pas allemand.
Attends, j'essaye comme lui, Hemingway.
Non, on dit pas Hemingway, on dit pas Hemingway.
Il a écrit quelle saison de Sous le soleil? Comme ça, ça peut nous aider à...
Attends. C'est pas Kant? Non.
Bah non, c'est pas Kant.
Kafka.
Pardon?
Kafka.
Kafka. Excellente réponse.
Je l'ai pas dit.
Eh oui.
Voilà, c'est ça.
Kafkaïen, bien sûr.
Sort des inédits de Franz Kafka qui sont publiés dans une Nouvelles traductions, éditions Rivage. On ne respecte pas toujours les volontés des écrivains.
Non, pour faire des sous, il republie ce qu'il avait mis dans les tiroirs.
Parce qu'avant sa mort, il avait demandé à ce qu'on brûle ses cahiers, ses carnets, sa correspondance, mais... un de ses amis a quand même tout gardé aujourd'hui.
Ah, oui, un ami, oui.
Aujourd'hui, on publie ses réflexions sur le péché, la souffrance, l'espérance. Il faut tout brûler vous-même si vous voulez pas qu'on retrouve...
Les fringues, surtout.
Remarquez, il y a longtemps que vous n'avez pas écrit quelque chose.
Oui, d'abord...
Non, mais le conducteur de Froufrou, il faut le brûler. Hein. Pourtant, c'est inestimable. Je sais, ça va me faire mal au cœur, et puis je pense aux collectionneurs, mais il faut le faire.
Tiens, il y a un autre inédit qui va sortir, c'est la deuxième question. Question ?
Ah, ben, il a avalé Jean-Phi. Merde, le patron a avalé Jean-Phi.
Ça devait arriver, hein.
Ouais, t'as commencé comme ça.
Ça apparaît pas dans le
livre. Dieu me regarde, moi je suis un garçon prudent, moi, vous voyez.
Ah oui, c'est sûr.
Je veux pas des maladies, moi.
Non.
Oui.
Mais Jean-Phi, c'est normal.
Parce que je vais prêter ma péniche.
Ah, ça y est. Ah, la voilà. J'étais sûr qu'on allait arriver. Ta péniche, on va en parler de temps.
Non, mais attends. Tout s'est bien passé, mais mon amoureux a attrapé la ch'touille.
Non, mais Jean-Phi, je te jure, demande à un médecin, c'est pas normal d'avoir deux glands.
Moi, j'ai dormi une nuit sur la péniche, j'étais plein de morpions.
Non, mais rassure-moi, tu fais des passes sanitaires.
Alors, un nouvel inédit va sortir, donc, disais-je...
On était sur Kafka avant ça, hein, on est d'accord.
Et on passe à un autre écrivain dont, justement, le premier roman va être publié pour la première fois chez nous en France. Et ce premier roman, en tout cas aux États-Unis, s'appelait « The Sea is My Brother ». Chez nous, ça va être traduit par « L'océan est mon frère ». Mais qui en est l'auteur ?
Cyril Dion, le...
Cousteau.
Non, Cousteau. Non.
Attends, écologie, c'est un truc
répétez
écologie.
Répétez la question. Ça n'a jamais été publié.
En France. Aux États-Unis, oui. Mais en France, non. Alors, premier roman écrit à l'âge de 20 ans et qui s'appelle L'océan est mon frère.
Greta Thunberg.
Est-ce que l'auteur est décédé ?
Ah oui. Ouais.
Est-ce que c'est un auteur du 20e siècle ?
C'était un navigateur ?
Un navigateur ? Alors non, mais il s'était engagé à ce moment-là, effectivement.
Quelle année ?
Alors là, on est dans les années 40. Ouais. Quand il s'engage et qu'il vient, il part sur un bateau, effectivement.
Henri Miller.
Non.
Arthur Miller.
Non.
Gérard Miller.
Non. Tabarly.
Il s'engage dans la marine marchande au printemps 1942. Voyez.
Il est américain ?
Ah bah oui. Alors non, il n'est pas
anglais.
Américain. Il a été américain ensuite, il a pris la nationalité américaine, mais il venait du Canada. Et ça, d'ailleurs, ça a été l'objet d'une question...
Ah, Roque Voisine !
Non, il n'y a pas si longtemps aux grosses têtes. Car on ignorait qu'il était canadien au départ et qu'il avait même, d'ailleurs, des origines bretonnes.
Ah bon ? Est-ce qu'il a une œuvre ?
Ah bah oui, une œuvre culte. J'ai posé une question là-dessus il y a 15 jours, mais là, j'ignorais à ce moment-là qu'il y aurait un inédit qui allait sortir chez nous.
Jacques Kerouac ?
Jacques Kerouac ! Excellente réponse ! Delis Semoun, vous avez lu Kerouac, Jean-Philippe ?
Oui.
Sur Instagram, tu l'as suivi.
Jacques Kerouac a ton nom.
La route,
ah oui, un beau roman sur l'océan, là, qui c'est son frère, je sais pas quoi. Une histoire de famille incroyable, hein, oui. Et puis, il y a du remue-ménage. Hein.
Quand vous lui prêtez votre péniche, puisque vous venez de nous dire que vous lui avez prêté votre péniche, vous lui conseillez des livres dans votre bibliothèque, Christine ?
Ah, bien, oui.
Il n'y va pas pour ça. Hein.
Il n'y a rien à foutre des livres.
Le miroir, des choses comme ça. Non, je sais pas.
Tu mets un peu de vaseline dans la salle de bain.
Oh mon Dieu.
J'ai même pas vu, il y a des livres sur la péniche.
T'as tout nettoyé après, en partant
Oui.
Il y a des livres sur la péniche.
Il y a un mur de livres, Jean-Phi. Tu les as pas vus?
Ah bah c'est peut-être parce qu'il y en a trop, ça fait un mur.
Mais si.
T'as cru que...
Si t'en retirais, il y a tout qui tombe.
T'as cru que c'était des briques?
Oui, mais je pensais que c'était de la déco.
C'était un décor.
Parce que chez moi, j'ai ça à trompe-l'œil, c'est une bibliothèque, mais c'est des faux livres, c'est du papier peint. J'ai cru que c'était la même chose chez elle.
Ah, bien sûr.
C'est D'Amido qui t'a fait le décor?
Oui, parce que péniche, tu m'as vendu à un hôtel 5 étoiles sur l'eau. Mon Dieu, c'est un camping-car flottant, oui.
En tout cas, les gars qui viennent vous voir, Jean-Phi, c'est pas de la péniche, c'est de la pénicilline dont ils ont besoin. tiens, une question amusante, un peu sous forme de devinette.
Ah, j'aime bien ça.
Une énigme, en quelque sorte, vous voyez. Je fais un peu comme pour les enfants, je fais des jeux. Quand
qui est noir et qui pue.
Quand ils sont trop nus.
Vous voyez, comme quand c'est la fin de la saison, vous voyez. Vous pourrez amener des jeux demain.
Ah oui. Vous vous souvenez quand on mettait des films en classe, quand c'était juste avant les vacances, la classe et on regardait des films. C'était quand
on va faire
chambé.
Comme si c'était comme ça aujourd'hui. Vous voyez. Ouais.
Allez, c'est parti. Qui est petit qui sent la gambasse Le zizi de Jean-Philippe.
Ah oui, Mimimati, elle s'est suicidée, elle s'est pendue à son bonsaï.
Ça, c'est drôle.
Tu sais quand est-ce qu'elle se détend, Mimimati? Quand elle se fait couler un bon bidet.
Je la connaissais pas, celle-là.
Moi, ça me... Voilà. Ça, c'est mon niveau.
Pour Romain Pujol, qui habite Nevers, dans la Nièvre, pouvez-vous me dire comment s'appelait Roméo avant d'arriver à Monte-Carlo?
Alors attendez, c'est pas Roméo et Juliette.
Non, c'est pas Roméo et
Juliette.
C'est
un rapport avec le casino.
Alors, comment s'appelait Roméo avant d'arriver à Monte-Carlo? Je peux même vous dire l'année, en 1977.
C'est pas c'était Alpha.
Il y a un jeu de mots.
Alpha Roméo, c'est le rallye de Monte-Carlo.
Ouais. Mais ça a un rapport avec le rallye.
C'est sur la famille princière ou c'est uniquement sur les sportifs, les
Ce n'est pas sur la famille princière.
C'est un coureur automobile.
Pas tout à fait. Comment s'appelait Roméo? Non.
C'est une marque.
Une marque, on se rapproche, oui.
C'est une voiture.
Oui, c'est une voiture.
C'est une voiture, la Roméo.
La coccinelle.
Ah, c'est la coccinelle.
La coccinelle.
La 51, là.
C'est la coccinelle. Alors, comment s'appelait-elle?
Choupette.
Bonne réponse. Bonne réponse de Bernard Mabille.
Choupette.
Et oui, la coccinelle à Monte-Carlo, c'était un film sorti en 77. Et oui, les plus jeunes ne connaissent pas cette série de la coccinelle.
C'était marrant, c'est
super. On adorait ça, c'était une voiture qui parlait.
Comme Kit, moi je connais K2000.
Elle avait le chiffre 51 sur le...
Alors celle-là, à Monte-Carlo, elle a le 53.
Moi j'ai connu une voiture méchante qui s'appelait Christine.
Ah oui, c'est ça, Stephen King. C'est toi qui as un super bouquin de Stephen King.
Vous avez rencontré avant de l'écrire? Pour ceux qui ne connaissent pas la coccinelle, c'était une voiture, une Volkswagen, la coccinelle. Et effectivement, le premier film s'appelait Le Nouvel Amour de Coccinelle. Après, il y a eu la coccinelle à Monte-Carlo, puis la coccinelle à Mexico. Et dans le premier film, elle s'appelait Choupette, la coccinelle. En revanche, dans la coccinelle à Monte-Carlo, elle s'appelait Roméo.
Ah bon, mais pourquoi elle avait changé de sexe?
Bah oui, et puis il y avait un diamant caché dans son réservoir. Et d'ailleurs, il y a Gérard Jugnot et Josiane Balasco qui font de la figuration
dans la coccinelle.
Ça fait partie de leur premier film.
Bah comme maintenant. Hein.
Ils jouent un garçon papa.
Les grands-parents, si c'est pas Balasco ou Chantal Lobby.
Accroche-toi aux grosses têtes parce que t'es en train de te griller dans tout le métier. Là.
J'en ai rien à foutre, moi je suis un héros.
Ah oui.
Je suis un pauvre type aussi. Mais je suis aussi un héros.
Mais il s'en fout, il a pas de métier.
Je suis l'esprit canal. Va sur Internet pour voir ce qu'ils disent, les gens. Je suis l'esprit canal.
Sur Internet, il a 2000 abonnés sur Instagram.
Bah, c'est pas mal, parce que attends, c'est du lourd. Il y a Obama, il y a Jean-Jacques Bourdin, il y a Cédric Jubilard, il y a du lourd. Quand t'en as 300 000, mais ils sont demeurés. Tu vois. Ah, mais c'est facile, l'autre.
Il y a Cédric Jubilard qui vous suit.
Ouais, il m'aime bien. Il correspond et tout. Il adore Christine. Ça sent bon, on va se marrer à la fin de l'année. Je vais l'inviter dans le public.
Qu'est-ce que ça a donné, les fouilles? Ils l'ont retrouvé, le corps?
Qu'est-ce que ça a donné, quoi?
Les fouilles.
Non, ils l'ont pas retrouvé.
Ils ont réordonné des fouilles dans une ferme que Cédric Jubilard, il aurait dit à son co-détenu.
Mais elle est partie à Dubaï, comme toutes les influenceuses. Pourquoi on la fait chier comme ça, la pauvre? Elle fait des selfies, elle s'éclate, et puis elle doit suivre Boublil. À mon avis, vu le profil de la meuf.
Christine, elle doit connaître, parce qu'elle suit toutes ces affaires-là par cœur. Christine, bravo. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous écoutez juste avant les grosses têtes, Jean-Alphonse Richard.
Oh, j'adore.
Avant notre émission, tous les jours, il y a Jean-Alphonse Richard.
Sauf que moi, je suis au chiotte à chaque fois, mais... Donc je la rate, mais c'est vrai que c'est bien.
Ah, c'est bien.
Ah, non, c'est
il
formidable.
A une voix, là, pendant une heure.
Ah, j'adore.
Il vous captive.
Alors, parfois, c'est vrai que le changement à 15h30 est brutal.
Tu m'étonnes.
Parce que l'autre jour, j'étais dans la voiture. Il nous racontait Nordal le Landais, voilà, la petite Maëlys, des trucs affreux. 15h30, Laurent Ruquier, les grosses têtes.
Bah, c'est un autre tueur en série, c'est pareil. Sauf que là, il s'exprime, c'est pas un récit, quoi.
Non, non, c'est le passage à l'antenne est
oui,
brutal.
C'est contrasté, effectivement.
Mais c'est passionnant. Moi, j'adore l'émission et il a une voix incroyable.
Ah oui, il est formidable.
Par rapport à Jean-Philippe, je veux dire.
Ah bah oui. Mais, il a tué ce belle-mère, mais il a dit que c'était son beau-frère. Hein. Alors, et on a retrouvé l'arme du crime. Hein. Elle est tout enterrée dans le jardin.
C'est vrai que ça marche moins bien.
Ça fait
moi
moins
j'aime
peur.
Bien, mais ça marche moins bien.
C'est l'heure du ch'ti. Ah oui, racontez-nous l'affaire Jubilar en ch'ti.
Ah oui. Le pauvre infirmière, là, et il paraît qu'elle a sorti les chiens à 23h. Déjà, c'est tard pour sortir à chien. Hein. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient pas. Et les chiens sont revenus, on ne sait pas si les chiens sont revenus. Non. Les chiens reviennent tout seuls à la maison.
Et surtout, ils gardent la voiture dans l'autre sens.
Qu'est-ce qui se passe? Lui, il voit bien que sa femme n'est pas rentrée. Et il attend un petit peu quand même avant de prévenir les secours et la police.
Ouais.
Il tourne dans la maison, machin. Et il décide, 2 heures ou 3 heures plus tard, à dire hey, ma femme n'est plus là. Ouais. Et du coup, ils sont revenus, ils ont tout fouillé. Parce qu'ils ont cru qu'il
était. Parce qu'ils vont nous faire démarrer à 14h30.
Ouais, c'est ça.
RTL, le livre du jour. Ah ben ça tombe bien, on parlait justement de l'émission d'RTL qui précédait avec Jean-Alphonse Richard. Et on va avoir un journaliste de RTL au téléphone dans un instant, spécialiste cinéma, Stéphane Boutsock, puisqu'il publie L'Alpe d'Huez, festival du film de comédie, le livre. Peut-être vous êtes dedans d'ailleurs, Élie Semoun, et vous
oui,
aussi.
J'espère, moi je
président.
Max Boublil.
Moi j'ai présenté aussi il y a longtemps.
Vous l'avez présenté
en 2005.
Sans rire.
J'ai monté des sketchs avec Action Discrète pour une des premières éditions. Et ils nous ont jamais rappelé.
C'est
bizarre, hein. C'est très étonnant.
Il faut dire que c'est un anniversaire pour le festival de l'Alpe d'Huez, d'où ce magnifique livre qui retrace l'histoire de ce festival du film d'humour, de comédie.
Ah ouais, tous les plus grands, les Chevaliers du Fiel, la Bande à Fifi. Génial le livre. Salut Stéphane, ça va?
Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour Laurent, bonjour.
Mais c'est vrai que des films comme La vérité si je mens, Bienvenue chez les Ch'tis, L'arnaqueur, Babysitting, La première étoile, La cage dorée, tous ces films. Bon, vous me direz, tous sont passés par l'Alpe d'Huez parce que maintenant, les producteurs savent que quand on produit une comédie, il faut être présent à l'Alpe d'Huez. D'accord, Stéphane Boutsock?
C'est-à-dire que c'est devenu un rendez-vous en 25 ans qui s'est imposé. Ça n'a pas toujours été facile, il y a même eu une année sans. Mais c'est vrai que maintenant, c'est un festival qui compte, où on découvre les grandes comédies de l'année qui vient. Et vous citiez quelques films qui ont vraiment commencé ici. Les Ch'tis, Babysitting, la révélation de la bande à Fifi, qui était là cette année d'ailleurs. Tout a commencé, en effet, à l'Alpe.
Absolument.
Je n'ai pas posé de questions encore à propos de votre livre, et je vais le faire maintenant. Donc je vous demande évidemment de garder la réponse pour vous dans un premier temps, Stéphane Boutsock, si vous le voulez bien. Puisque dans le livre, on voit François Clair. François Clair qui a marqué le cinéma français. Et pourtant, François Clair, on ne connaît pas forcément, on n'a pas forcément retenu son nom. Mais qui est François Clair et pour quelles raisons se trouve-t-il dans le livre de Stéphane Boutsock sur le film de comédie?
C'est un réalisateur?
Non.
Mais c'est pas un professionnel du cinéma?
C'est un personnage d'un film. Non.
C'est un personnage d'un film.
Certainement.
Ah non, c'est son vrai nom, François Clair.
Ah, c'est son vrai nom?
Oui.
Ah, c'est le nazi dans Ducobu?
Le nazi dans Ducobu, non. Il y a tout un chapitre qui lui est consacré dans le livre de Stéphane Boutsock sur le film de comédie. Et c'est bien normal qu'il y ait ce chapitre à propos de François Clair.
Parce qu'il apparaissait dans plusieurs films qui ont été sélectionnés.
Non, on l'a vu que dans un film d'ailleurs, pour être très juste, 3 films, parce qu'il y a eu 3 versions différentes de ce film.
Mais il vit toujours?
Ah non, ça non, il ne vit plus. Non.
Et depuis longtemps, il ne vit plus.
Ah, il est mort il y a quelques années, il venait de Montélimar, pour tout vous dire.
Les 3 films, c'est 3 suites ou 3 versions différentes?
Pardon?
Les 3 films, je parle bien, on ne m'écoute pas. Hein. Les 3 films, c'est 3 suites ou c'est 3 nouvelles versions de la première?
Je ne suis pas sûr qu'il comprenne lui-même ce qu'il dit.
Est-ce que c'est OSS 117?
Ah non, non.
Est-ce que
non,
ce
non,
serait
non.
pas.
Dans le Père Noël est une ordure?
Ah non, non. Ça vous amuse, hein, Stéphane Boutsock?
Ah oui, ça m'amuse, oui.
C'est un gendarme.
Un gendarme,
un
non.
Flic.
Ah non. Et vous le connaissez tous, hein, vous l'avez tous vu au moins une fois.
Oui, oui, un grand.
Même moi, je l'ai vu.
Même vous.
Pourquoi surtout moi?
C'est un film des Frères Lumière?
Ah, bravo.
Ah, c'est
bravo,
bon.
Toen.
Ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose.
Alors.
Le jardinier dans le film des Frères Lumière.
Mais quel jardinier?
C'était quoi?
L'arroseur arrosé.
L'arroseur arrosé.
Oui, bien sûr.
Bonne réponse. réponse d'Élie Seymour.
Ah oui.
Eh oui, François Clerc, c'est le jardinier, l'arroseur.
Voilà, je savais, ça me parlait.
L'arroseur arrosé, le premier gag de l'histoire du cinéma. Évidemment, ça date de quelle année ?
C'est les premiers émois de cinéma de Bernard Mabille.
On est en 1895.
Ah oui, on est au tout début de l'histoire du cinéma. Mais vraiment, c'est vraiment la première comédie.
Et Leclerc, c'est pas celui qui a mis la baguette à 29 centimes ?
Non, c'est François Clerc, Bernard. Claire. En 1895, et c'est un film qui dure 49 secondes. C'est le premier.
Ça peut être la durée des films de Boublil. Franchement, on serait pas malheureux.
Ah là 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 là.
On l'espère.
Non, 50 secondes, ça peut être génial.
Mais c'est le premier gag de l'histoire du cinéma. C'est le premier film de comédie, L'arroseur arrosé.
Mais bien sûr, on se rappelle de ce tuyau d'arrosage, tout simplement, où il y a un coup, l'eau ne circule plus parce que quelqu'un appuie dessus avec le pied, il lève le pied et l'eau jaillit dans la tête de ce comédien.
Et ça continue chez Hanouna, regardez les émissions.
Non, c'est un gag qui est dans le dernier du Cobu d'Élie Seymour, je crois.
Mais le gamin, il s'appelle Benoît Duval. On a son nom aussi, hein, du garçon. Parce que le film s'est appelé à un moment donné Le jardinier et le petit espiègle avant de s'appeler L'arroseur arrosé. Il y a eu trois versions, parce qu'il y a une version où l'arroseur arrosé, parce que le gamin évidemment met le pied sur le tuyau, puis l'autre évidemment il regarde le bout du tuyau, il se fait arroser. Bon, alors il y a une version où il court après le gamin et il lui donne la fessée. Une autre version où il court après le gamin et là il l'arrose à son tour avec le jet d'arrosage. En fait, il y a eu trois versions différentes de L'arroseur arrosé. C'est bien ça, Stéphane?
Absolument, vous savez, les frères Lumière à l'époque, ils refaisaient à l'envie, parce que les films voyageaient dans le monde entier, les films au début étaient très très fragiles, c'était en effet de la pellicule extrêmement friable, donc il fallait parfois retourner, et puis ils amélioraient aussi en effet en 49 secondes leur petit scénario.
Quelle est l'ambiance à l'Alpe d'Huez, malgré évidemment la triste nouvelle apprise hier à propos de Gaspard Ulliel ?
Ben, c'est un peu particulier cette année parce que il me semble qu'on vit une petite pandémie qui aurait tendance à s'éterniser. Donc la présidente du jury cette année, c'est Michèle Larocque. Ben, Michèle, elle n'est pas venue parce qu'elle a été testée positive juste avant de partir. Donc elle télétravaille.
Ah,
elle
c'est ça de faire l'amour à trois.
Oh, ah, bien joué.
Elle regarde les films à distance et il y a trois membres du jury qui sont ici, qui sont Mathilde Seigné, Joséphine Japy et Ruben Alves. Malik Bentala, qui devait être là, lui aussi est positif. Mais franchement, ça se fait, il y a une bonne ambiance, on fait gaffe. Hein. Passe vaccinale, moins de fêtes. Élie et Max s'en souviennent peut-être, c'est un peu différent cette année.
Ah ouais,
mais franchement, on voit des choses formidables.
La prochaine fois, il faudra faire le festival à Londres, comme ça tout le monde sera content. En tout cas, on voulait signaler évidemment ce magnifique livre publié au Cherche Midi, L'Alpe d'Huez, le festival du film de comédie. C'est un anniversaire puisque l'Alpe d'Huez a été créé il y a 25 ans, 25e anniversaire. Une question à destination de Marc Attia qui habite Joncherie-sur-Velle dans la Marne. Qu'est-ce qu'il a dit, Toël ?
Je ne sais pas ce qu'il a dit, une saloperie.
Moi, je sais ce qu'il a dit. Il a dit. Vous avez dit, c'est une question pour Élie Seymour, et il a dit, qui est Goebbels ? Voilà. Voilà le niveau.
Voilà le niveau.
Parce que tu m'as dit que tu avais lu sa biographie, que finalement, il était intéressant.
Et que je l'adore.
Voilà. Qu'il y avait un autre côté, une deuxième couche du personnage.
Mais vous schématisez l'humanité. C'est insupportable.
Ma question est plutôt sur la passion d'Élie Seymour, vous le savez. Pour
les bides. Les sales bides.
Les plantes en général, évidemment.
Les belles plantes.
Et là, je vais vous demander, qu'est-ce qu'une plante rudérale, monsieur Seymour ? Une plante rudérale.
Il partage cette passion avec De Funès.
Une plante rustique.
Rustique.
Rudérale.
Ah ben, c'est toute la question.
Urticante.
Alors, est-ce que c'est une plante du sud, des pays chauds ?
Ah non, ça peut être n'importe où,
est-ce
une plante
que c'est
rudérale.
C'est pas une plante aquatique ?
Non.
Qui pousse dans les milieux aquatiques ?
Ça pourrait
parce
aussi.
Parce qu'il y a une
c'est
plante
beau.
Qui s'appelle.
Ah ben ça, il y en a des belles, des moches.
Bon. Enfin, c'est du plancton ?
Du plancton, non.
Elles sont plus souvent belles que moches.
Oh, elles sont plutôt plus souvent moches, à mon avis, que belles.
On peut prendre rudérale pour un autre. Pour un autre mot, enfin, on peut dire rudérale dans d'autres circonstances. Il n'y a pas que des fleurs qui sont rudérales, c'est ça que je veux dire.
Est-ce que Jean-Phi ?
Je ne sais pas quel est le nom de votre rue, mais vos voisins l'ont surnommé la rue des râles.
Excellent.
Bien joué.
Est-ce que Est-ce que c'est pas une plante dont la fleur sent extrêmement mauvais?
Non, ça non.
Vous savez,
parasitaire.
C'est une plante parasite.
Si vous avez fait du latin, évidemment.
Oui,
Ruderal, ça vient du latin rudus, ruderis, qui veut dire.
Dur, dur.
Non, pas du tout.
Est-ce que c'est une plante grimpante qui s'accroche aux arbres?
Pas spécialement, non.
Un bambou.
Un bambou, non.
Est-ce que c'est une plante qui mange la carnivore?
Non, mais il y a plusieurs formes et sortes de plantes.
Moi, ce qui m'intrigue, c'est votre conception de la beauté et de la moucheté.
Ah oui.
Puisque vous
dites qu'elle est moche.
On n'a pas toujours été d'accord là-dessus.
Oui, bah, ça se voit.
Il te trouve sublime, Christine. Donc tu peux lui faire confiance. Il a même dit qu'il adorait ton survêt vert. Tu peux lui faire confiance.
C'est vrai que c'est curieux, ce jogging vert.
Est-ce que c'est que ces fringues? On est à la radio, c'est pas une raison, Christine.
C'est un habit de confort.
Toi. Le respect du public qui est venu, qui a fait 4 heures de RER.
C'est ta bonne mine. Moi, je trouve que
vous venez en jogging vert maintenant.
Oui, je viens.
C'est pour être discret dans le bois de Boulogne.
Est-ce que c'est une plante qui pousse très haut?
Oh, il est resté sur la plante.
Non, mais moi, c'est mon honneur et ma fierté, s'il te plaît. Il faut que j'arrive à répondre à cette question.
Je vous ai déjà dit 18 fois que c'est pas une plante.
Oui,
c'est une famille de plantes. On a compris.
C'est pas une famille. Il y a plusieurs plantes rudérales. Dans quel cas? Alors, je vais la poser autrement, si vous voulez.
Je sais.
Dans quel cas dit-on qu'une plante est une plante rudérale?
C'est une plante qui a des dents.
Quand elle
a des
dents, elle fleurit toute l'année.
Non.
Quand elle pousse ailleurs que dans la terre.
Laurent, ce qui la rend moche, c'est sa couleur?
Non, mais c'est que forcément, vu qu'elle est rudérale, elle peut peut-être être jolie, mais à mon avis, elle a plus de chances d'être moche.
Elle pousse à l'intérieur de la terre.
Elle pousse à l'ombre.
Dedans la terre. C'est un bulbe.
Elle pousse sur de la merde.
Quoi?
Elle pousse sur de la merde. Sur des bouses de vache, tout ça.
Ah, c'est pour ça qu'elle serait moche.
Comme nous, un peu.
C'est une plante invasive
qui n'a rien
à
alors,
faire.
Où est-ce qu'elle pousse, la plante rudérale?
Elle tue les gens.
Dans les terrains vagues.
Pas tout à fait des terrains vagues.
Dans les décharges, sur les arbres.
Ça peut être dans les décharges, mais pas tout à fait.
Sur la route.
Ce sont des orties.
Dans les algues.
Dans les algues, non.
Dans les voies de vélo d'Anne Hidalgo.
Dans les poubelles.
Dans les poubelles, dans les voies de vélo, ça peut marcher.
Ah, c'est de la mousse. C'est de la mousse qui pousse sur les toits.
C'est de la plante urbaine. C'est de la plante urbaine.
Sur les plots.
Alors ça, c'est de la plante urbaine, ça veut dire. C'est de la plante qui met...
qui ne pousse que sur de la
Des plaques d'égout.
Entre les bitumes.
Sur la pierre.
Sur les pavés.
C'est sur le bitume.
Vous l'avez pas trouvé exactement.
Elle n'a pas de racine.
Mais sur les murs.
Pardon.
Elle n'a pas de racine.
Si, elle a une racine latine, ça vient de Rudus ruderis.
C'est l'urine des rats.
Pas du tout.
Elle s'accroche au mur.
Non plus.
Comment ça se fait? Les bordures de trottoir.
Ce sont des plantes colonisatrices,
de
évidemment.
Caniveaux.
De caniveaux. Ça peut être aussi dans
d'égouts.
Dans les égouts aussi, si vous voulez.
Il y en a dans les... Alors, ce sont des plantes qui se nourrissent de déchets.
Exact, donc...
Ben quoi donc, j'ai trouvé.
Elles sont rudérales.
Ça pousse dans le compost.
Il manque une précision.
Décomposition, sur les déchets en décomposition.
Les déchets plastiques.
Non plus.
Humains, les déchets humains.
Non, justement.
Ah, les déchets humains, il y en a ici. Ouais.
Non, justement. Ah, c'est la honte.
On va donner 300 euros
à cause... On n'est pas loin.
Ah, vous n'êtes pas loin, mais vous ne m'avez pas donné la précision exacte.
Ah, le goudron.
Non, alors, sur le goudron, oui, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'une plante rudérale? Est-ce que quelqu'un a une idée dans le public? Non, pas
la
plus.
Poussière,
la poussière.
Une plante rudérale, c'est une plante qui pousse spontanément, mais sur les décombres. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait eu, pour qu'elle soit rudérale, quelque chose qui soit construit par l'homme avant. Et les plantes rudérales poussent, par exemple, le long des voies ferrées, le long de ruines. Okay. Vous voyez, il faut qu'il y ait eu construction.
C'est ce qu'on appelle des mauvaises herbes.
Les mauvaises herbes, vous pouvez en avoir dans des endroits où il n'y a pas eu de construction.
Oui, bien sûr.
Là, je vous dis que les plantes rudérales, ce sont des plantes qui poussent là où il y a eu construction humaine, sur des décombres de construction humaine. Voilà ce que c'est qu'une plante rudérale.
Mais les plantes existaient avant les décombres d'origine humaine. Donc,
par exemple, tu rentres, tu casses ta maison, tu fais tomber un truc. Une plante qui pousse dessus, c'est rudéral.
Après un tremblement.
C'est étonnant, ça.
Voilà, écoutez, Jean-Philippe, il a compris au moins.
Ça alors.
Une question pour Alexandra Azan, qui habite Noisiel, c'est en Seine-et-Marne. Si je vous dis que Calpurnie ou Calpurnia l'avait rêvé, Elle a même prévenu son mari de son rêve, mais il ne l'a pas écouté. Qui était Calpurnia ?
Une déesse de l'Antiquité.
Non, une déesse, non.
C'est la mythologie
Ce n'est
grecque.
Pas de la mythologie, non.
Pas du tout.
C'est une hindoue.
C'est récent.
Oh, récent, non. Une hindoue, non. Calpurnia. Hein.
Calpurnia.
Oh, je peux vous donner son nom en entier, ouais. Son nom de jeune fille, en tout cas, Calpurnia Pisonis.
Elle est française ?
Ah non.
Elle est italienne. Oui,
elle est du Gers.
Italienne, oui.
Italienne.
Oui.
Italienne, donc elle a,
donc elle a rêvé.
C'est une princesse.
Elle a rêvé de quelque chose.
Elle a prévenu son mari.
Et son mari ne l'a pas écouté.
Et il est mort, son
mari. Et il est mort.
La mafia, c'est un rapport avec la mafia.
Poison,
avec la mafia, non.
Ou alors c'est l'Etna. C'est pas avec l'Etna.
Pardon.
Ça paraît pas avec l'Etna.
Pardon.
L'Etna.
Est-ce que cela aurait-il rapport avec l'Etna, le volcan, vous savez.
C'est dingue parce que les ch'tis dans film, c'est pas drôle, mais en vrai, c'est drôle.
C'est Pompéi, Pompéi.
Pompéi. Et le mari a été assassiné.
Oui, madame.
Voilà.
Ah. Alors, c'était, est-ce que c'était un juge ?
Un juge, non.
Sa est-ce femme que c'est un roi dit. Ou un...
Un
est-ce
roi,
qu'il a un
non.
rapport avec...
C'était pas un producteur de cinéma et son rêve, c'était de me voir aux grosses têtes.
Est-ce que c'est un noble ?
Mieux qu'un noble.
Est-ce que c'est un Médicis ?
Un roi, c'est un roi. C'est un roi.
César. C'est Jules César.
C'est Jules César. Ah. Bonne réponse de Bernard Mabille.
Donc c'était là. D'accord.
C'est la dernière femme de Jules César, Calpurnia Pisonis. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, hein, autant vous le dire. Mais c'est elle qui, en rêve, a vu la scène du meurtre avant qu'elle ne se produise.
Oh, c'est dingue, ça.
Elle a mis en garde César, qui devait se rendre au Sénat. Et puis, il ne l'a pas écoutée. Elle ne s'est pas remariée après la mort de César. Elle a été fidèle, vous voyez.
Ça, c'est les premiers symptômes. Bientôt la réa. Je vais présenter cette émission.
Je serai tranquille à l'hôpital. Je serai tranquille.
Bah non, c'est dommage, j'en aimais bien.
On vient tous à l'heure des visites.
Non, nous, on aime bien Laurent Ruquier. Moi, je vous aime bien.
Merci, Max. Mais moi aussi, je vous aime bien. Vous êtes un garçon sympathique, propre.
Il est propre, oui. C'est vrai.
Je cherche le mot talentueux.
Il y a bien comme adjectif. Que propre, non, il n'y a pas mieux que propre.
Propre, non, moi j'ai.
Propre, c'est vraiment de la merde hein, quand ça suffit de prendre une douche. Enfin, des gens propres, c'est pas non plus.
Mais j'ai pas que. Ouais, mais...
T'es propre, frère. Ouais,
j'aurais aimé aujourd'hui, j'ai pas que ça. Il y en a qui viennent en jogging, vous voyez.
Non, mais de tous les gens qui écrivent pas leur sketch, c'est vraiment le mec le plus sympa.
Ouais, merci voilà. beaucoup.
C'est ça qu'il voulait dire, Laurent.
Non, mais en tous les cas, s'il y en a un que j'aime vraiment autour de cette table, c'est Laurent Ruquier.
Mais moi aussi, voilà. Max, voilà. Il y en a bien un qui a... C'est moi aussi. En tout cas,
Emma Christine. Oui.
Calpurnia Pisoni.
Moi, c'est... je viendrai vous mettre des nouilles dans votre perf.
Des nouilles.
Quand vous serez à l'hôpital, je m'occuperai de vous.
Ah oui.
Jusqu'au dernier moment.
Ah oui.
Oh putain.
Ah,
vous serez la dernière.
Autant que je reste ici, alors.
Même dans le coma, elle te parlera.
La dernière image que tu auras avant de mourir, c'est Christine Bravo. Oh,
tu veux encore des nouilles, mon petit Laurent ?
Un petit whisky ?
Tu veux des nouilles ?
L'enfer aura commencé déjà.
Il y en a un qui sera en train de manger des nouilles, c'est Mabille.
Ça va être beau, votre mort, Laurent.
Ah, ça va être magnifique.
Ça va être sublime.
Ah ben, je veux bien, alors là, vraiment, si je meurs, je veux bien, monsieur Twain, que ce soit vous qui fassiez l'éloge funèbre.
Ah oui, ah,
ça serait un honneur, patron.
Ah, et une petite chanson d'Elise Moon en bossa nova
pour
finir.
Il va mourir deux fois, merde.
Feriez ça pour moi, monsieur
Toen. Avec plaisir, patron.
Vous voulez essayer même, là, éventuellement, admettez. Vous ne pouvez pas envoyer une petite musique.
Une réverbe.
Ah, voilà, une petite réverbe.
C'est là
une
qu'on va
musique.
Voir ton talent d'impro. Escroc. Je sais que c'est tout avant.
Non, on va voir, c'est pas écrit. Plantes, hein. Hein.
Et je pourrais vous faire une petite promo.
Rien que ça, ça donne envie de vivre longtemps.
Pourvu qu'elle meure avant toi.
Alors écoutez, voilà, je ne suis plus là et Sébastien Toen va faire mon éloge funèbre.
Laurent Ruquier est né au Havre en 1912, a traversé les époques. Résistant 45, collabo 1923, c'est un auteur de talent qui nous quitte aujourd'hui. Moustachu dès l'âge de 6 ans, ça n'était pas gagné pour lui. Et puis il rencontre Jean-Jacques Bourdin. Une piscine, une stagiaire et l'aventure commence. Les boulots s'enchaînent, les rencontres aussi. Curieusement, il aime d'abord les femmes, puis les chiens. Puis les chiennes, pour finalement tomber sur Jean-Philippe Janssen, avec qui il écrira Boeing Boeing. Et le secrétaire est une salope. Que des chefs-d'œuvre dramaturges. Il va nous manquer, Laurent.
Mi Michel Simès, mi Mimi Mati. C'est un physique et un talent qui s'en va. Et surtout beaucoup de gens, dont Christine Bravo, qui n'ont plus de boulot. Sans parler de Titoff et Max Boublil. Il va nous manquer, Laurent. On aura ri. On aura même parfois joui. Ça, c'est Jean-Phi. Adieu, l'artiste. À bientôt.
Ah ben, c'est beau. J'ai hâte.
Bravo.
Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL.
Perrine va jouer avec les grosses têtes. Tout à l'heure, on aura un auditeur pour jouer aux fake news. La valise RTL, ce sera juste avant l'invité mystère. Mais là, avant les infos, les trois infos de 17h, c'est Perrine qui va tenter de parier sur la grosse tête qui connaît le mieux l'actualité. Pas facile aujourd'hui. Bonjour Perrine.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes.
Bonjour Perrine.
Vous êtes en Charente-Maritime, Perrine.
Oui.
Pas de chance.
Et je vous souhaite de voyager bientôt jusqu'à Saint-Cyprien, à l'hôtel de l'île de la Lagune, puisqu'on a déjà réservé pour vous dans ce relais château des Pyrénées-Orientales, hôtel-île-lagune.com, pour connaître un peu plus le lieu magnifique, l'île privée, les chambres luxueuses, la piscine chauffée, le restaurant L'Allemandin avec son étoile au Michelin. Vous savez tout ça par cœur, Perrine, car vous écoutez, j'imagine, les grosses têtes régulièrement.
Oui, presque tous les jours.
Presque tous les jours. Vous avez 35 ans, que faites-vous dans la vie?
Eh bien là, je suis en congé maternité depuis quelques jours.
Oh,
oh, c'est mignon, quel âge elle a?
Mais non, elle attend
non,
encore.
Elle, attend. Elle est dedans encore. Hein.
Perrine, sur qui misez-vous? Sur qui pariez-vous? À votre avis, quelle grosse tête du jour suit le mieux l'actualité?
Mais écoutez, pour fêter la Saint-Sébastien aujourd'hui, je vais choisir Sébastien.
Oh, ah, je t'aime, Perrine, je t'aime, et t'es maquée. Non, mais avec plaisir, je vais essayer.
On terminera par Sébastien Toen. Je vais tenter de vous éliminer tous les autres avant, parce que c'est la seule chance pour vous, autant vous dire, Perrine.
Oh, yo.
Bernard Mabille.
J'ai trouvé Platini, hein, moi.
Bernard Mabille, ouais. Pouvez-vous me dire qui est Roberta Metsola?
Ah oui, Metsola, bah oui, c'est la patronne de l'Europe. Présidente.
Présidente voilà. Du Parlement européen. Vous êtes qualifié, Bernard. Voilà. Monsieur Janssen, ah, qui oui, est je... Diane Lair.
Oh, quand même.
Oh, Diane Lair. Je le sais, je le sais, Diane.
Diane Tell, hein. Diane Lair.
Non, oui, Diane Lair, c'est en politique, ça.
Ah oui, c'est Miss France 2022.
Ah oui, ça s'appelle Lair.
Vous êtes mais éliminé, oui, monsieur Janssen. Monsieur Lissemoun, qui est Victor Pérez.
Alors, oh, Victor Pérez, c'est un guitariste espagnol.
Numéro
qui
un
va
français
remplacer...
de golf, il est à Abu Dhabi pour sa nouvelle année voilà. sportive. C'est notre golfeur numéro un, Victor Pérez, vous êtes éliminé.
Merci.
Monsieur Boublil,
bien sûr.
Qui est Virginie Grimaldi.
Ah, la fameuse de la famille Grimaldi, de la famille des princesses, Virginie Grimaldi qu'on embrasse et qui doit aujourd'hui fêter l'anniversaire de sa sœur Charlotte de Monaco. On embrasse tous les princes et princesses.
C'est la romancière numéro 2 des auteurs.
Ah putain, j'ai vu des ventes. Des
qui
ventes.
Ont le plus vendu en
putain,
2022.
Putain, je l'ai vu et je me suis dit, putain, les thunes
bon,
qu'elle doit avoir.
Vous savez un truc.
Quelle hécatombe.
Vous êtes éliminé, monsieur Boublil.
Elle a écrit quoi?
Oh, bah, elle a écrit des tas de livres. Vous voulez que je vous donne les
bah,
titres,
deux, trois titres?
Elle a écrit, par exemple, Le premier jour du reste de ma vie.
Ah, okay, c'est
un film.
Voilà, voilà.
Elle a fait un film.
Virginie Grimaldi, elle est numéro 2 de tous les écrivains qui vendent le plus, oh derrière là, Guillaume Musso et premier. Devant Franck Tilliez. Ah, voilà.
Et devant Lévy.
Voilà le podium, oui, Marc Lévy est cinquième seulement.
Ils ne peuvent pas être premiers partout.
Et
hein.
C'est Michel Bussy qui est quatrième. Qu'est-ce que vous dites, vous?
Ils ne peuvent pas être premiers partout.
Les Lévy.
Mais tu penses qu'on se réunit et qu'on contrôle les trucs et tout? Tu penses qu'il y a des jours où on se réunit
ah,
entre nous?
Ah, toi, aux grosses têtes? Non, tu contrôles rien. Ça
non,
sûr.
Non, non, mais dans ton inconscience, tu penses que genre on fait des
bah,
dîners avec Arthur et Lissemoun?
Je parlais pas de ça, moi, je te parlais de Guillaume Musso, moi. Je parlais pas de Marc Lévy, moi.
Qu'on s'échange des recettes. Et
d'ailleurs, on a une réunion mercredi à 16h, ah, oui. Une réunion média.
C'est vrai.
Ouais.
Ouais. Bah, dis-moi, toi, tu te charges de la Poitou-Charentes, moi, je vais
oui,
contrôler
oui,
le Midi-Pyrénées, là.
Et vous avez validé mon dossier d'inscription?
Non, pas encore.
Et Lissemoun, 35 000 millions d'Allemands ne peuvent pas avoir tort. Je vous le dis.
Je suis assez d'accord.
Pensez-y.
Christine Bravo, pouvez-vous me dire qui est Fabien Roussel?
Oui, je sais qui c'est, mais là, mais enfin, ça
moi,
m'échappe.
Pas,
ça. Mais
moi,
oui,
je peux répondre.
Je sais qui c'est. Ouais,
c'est le PC.
Bah,
Christine,
c'est
enfin.
C'est le PC.
C'est le candidat communiste à la présidentielle.
Oh là là.
Oh là là là.
On a trouvé, Laurence.
Ouais, mais ça...
Monsieur Toen.
Oui, c'est moi. Toi.
Attention, parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance pour
bah oui,
Perrine.
Mais Roussel, je savais.
Vu que Bernard Mabille est qualifié, si vous chutez, c'est foutu pour Perrine. Vous le savez, ça.
Nique sa mère.
Perrine, encouragez-le un peu.
Oui, alors courage Sébastien.
Courage
Sébastien. Éric, quoi qu'il arrive, je te ferai un truc.
Je suis sûr que Pierre Ninet, ce sera la réponse de toute façon.
Je t'offrirai un truc quoi qu'il arrive.
Une plante du Ralex. C'est pas le nom.
Non mais j'avais les deux derniers, je suis dégoûté Laurent, j'avais les deux derniers.
Dis-moi Élie. Oui, la réunion, tu sais, pour mettre la 5G dans les vaccins, j'y étais pas. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est bon, c'est à partir de demain, demain 16h.
Ah, changé, parce que je reçois tellement mal en ce moment.
Et comment, ton bouquin, sauf qui passe, ça sort quand, là?
Ça sort après-demain.
Voilà. Oh, et puis...
Toen, ne détournez pas la conversation et dites-moi plutôt... Attention, je vous prends quelque chose vraiment dans l'actualité, c'est trouvable, si Emmanuel vous avez lu les journaux. Qui est Jérôme Rivière?
Oh là là. Oh, c'est par rapport au Covid. Il y a un truc, c'est un professeur. C'est quelqu'un qui a trouvé la...
Il a écrit un roman
Jérôme fleuve. Rivière.
C'est un romancier qui a écrit sur le vaccin.
Il a écrit un roman fleuve.
Jérôme Rivière, non.
Alors là, on peut me l'accorder.
Monsieur Toen, je suis désolé pour Perrine.
Oh, c'est un réalisateur, Jérôme Rivière.
Non, c'est le patron des eurodéputés Rassemblement National. Oui, prise de guerre d'Éric Zemmour. Ah,
oui. Mais il fallait me dire Guillaume Pelletier. Là,
ah bah oui, mais justement, c'est le deuxième après Guillaume Pelletier qui quitte Marine Le Pen pour Éric Zemmour.
Il en prend des têtes d'affiche.
Il est dans tous les jours. Qu'est-ce que vous dites?
Il en prend des têtes d'affiche. Oh la vache.
Ah, il a un casting de merde.
Oh là là.
Pire que les grosses têtes.
Si vous n'aimez pas la France, n'en dégoûtez pas les autres.
Il est dans tous les journaux, Jérôme.
Il va peut-être reprendre Roucas.
Sauf que Jérôme Rivière est dans tous les journaux aujourd'hui, monsieur
Toen.
Perrine, je suis désolé.
Bah, je suis dégoûté.
En même temps, vous avez pris un risque. Hein. Miser sur Toen, faut vraiment...
J'avais les trois derniers, vous me mettez celui-là. Là.
Ah bah oui, oui, c'est Bernard Mabie, le grand gagnant, et une montre RTL pour vous, Perrine.
C'est injuste.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Christine Bravo, Bernard Mabie, Jean-Philippe Janssen, Élie Semoun, Sébastien Thoen et Max Boublil. Une question pour Henri de France. Monsieur Henri de France habite Brazy en Plaine, c'est dans la Côte d'Or. Peut-être avez-vous lu il y a quelques jours dans Libération, sous la plume de Julie Ranson-Miquel, cet article qui nous dit que dans l'histoire des nouvelles technologies, il deviendra un astre mort dont la lumière brillera encore longtemps, comme les Kodak ou le Minitel qui ont été en leur temps des modèles hégémoniques qui ont complètement disparu. Mais de quoi parle la journaliste de Libération ?
Le Polaroid ?
Le Polaroid, non.
L'iPhone ?
L'iPhone ?
Ah bah l'iPhone, non. Ah, l'iPhone,
bah, non, mais dans quelques temps.
Les photomatons ?
Les photomatons,
le téléphone à touche, carrément ?
Ah non,
film,
non.
Téléphone à
non. Non, c'est quelque chose qui, effectivement, a cessé de fonctionner depuis la semaine dernière.
Le Minitel.
Est-ce qu'on s'en est beaucoup servi ?
Ah, certains, oui.
Le Minitel.
Le fax ?
L'horloge parlante.
L'horloge parlante.
Vous, Laurent, est-ce que vous en êtes beaucoup ?
Moi, j'en ai eu un. Oui, j'en
Un bebop,
non.
Un magnétoscope, un répondeur. Mais
c'est pas un Minitel.
Un manche-disque.
Mais pas longtemps, parce que très vite, j'ai trouvé que c'était pas pratique.
Un tatou.
Un tatou, non.
C'était pas pratique parce que c'était trop lourd.
Ah non, non.
Un stagiaire lycéen.
Ça se met au poignet.
Un beeper.
Ça se met au poignet.
Un poignet, non.
Magnétoscope, non.
Magnétoscope, non.
Le grand CD, le DVD, le grand CD-ROM, là.
Non plus.
Est-ce que c'était cher,
le Blu-ray?
Ah, c'était un peu plus cher que ses concurrents, oui.
Un Walkman.
Un Walkman, non.
Un Frigidaire.
Un Frigidaire, non, mini-disque, non.
Laurent en a eu un, ça n'a pas duré longtemps.
Ah oui, les DAD, là.
Vous l'aviez dans une pièce de la maison.
Pardon.
Le mini-disque.
Je viens de le dire, putain de ta race.
Mais je t'entends pas. Je ne te vois pas, je ne t'écoute pas, je ne te dis pas, je ne t'aime pas.
Vous l'aviez dans votre maison.
Bah, dans la maison quand j'étais à la maison, dehors quand j'étais dehors.
Ah, ça se balade donc.
Ah, une femme. Une femme.
Un Walkman.
Un dictaphone. Un dictaphone.
C'est vrai que dans l'histoire des nouvelles technologies, la femme deviendra un astre mort.
À la poupée gonflable.
Dont la lumière brillera encore longtemps, comme les Kodak, les Minitel, qui ont été en leur temps des modèles hégémoniques et qui ont complètement disparu.
Okay. Ah, un cul vibrant.
Un radiocassette.
Ah, les cabines téléphoniques.
Non plus.
Ah bah non.
Il sortait pas avec la cabine téléphonique dans la rue.
Ça a arrêté de fonctionner la semaine dernière.
Et est-ce que la semaine dernière, dernier, on s'en servait encore.
Certains, oui, d'autres, non.
On a parlé du bebop.
C'était pour communiquer ?
Oui, ça, oui.
Ouais. Posons les questions.
C'est ah, bah oui, je sais.
Les pagers, là.
Ah,
les
tam-tam. Oui.
Les tam-tam,
non.
Non, les tam-tam, tatou, non. Bebop, non.
Non, ça datait de 2005.
C'était japonais.
Début des années 2000.
Ah, les Tamagotchi.
Les quoi ?
C'est ça. Les Tamagotchi.
Les Tamagotchi. Vous communiquez, vous, avec les Tamagotchi ?
Non, j'en ai à la maison, je parle avec, oui. C'est un petit chat. Il faut
quelle
solitude.
Les téléphones à cadran.
Téléphone à cadran, non.
Non.
Les téléphones avec le clapet.
Non, il n'y a pas de clapet. Non.
Il a montré le micro, j'ai cru que c'était les micros.
Alors,
c'était lourd, c'était
ça
lourd.
Donc ça vous servait
poche.
À communiquer, on est d'accord. Vous parliez comme un téléphone.
Oui, ah ouais, ça comme un téléphone, on ne peut pas bien dire.
Un dictaphone.
Mais attendez, si c'est pas tatou, tam-tam, c'est quoi?
Ah oui.
Il n'y a rien d'autre.
Il y avait le bebop, mais...
Bah, le bebop, on l'a dit.
Ah, le téléphone avec la mallette.
Le Blackberry.
Le Blackberry.
Ah, oui, c'est vrai.
Bonne réponse de Bernard Mabille.
Oh là là, oh là là.
Ah, hey, oui.
fallait faire la chanson.
Tout le monde avait
la chanson. Oh, Blackberry. Blablabla.
Ça existe.
J'ai
reçu
des blagues de merde. Ça t'emmerde, Simone ?
Ah non, pas du tout, mais je vois pas de quoi.
Moi, j'ai reçu des blagues de merde. C'est pas, y a pas que toi. C'était un mourir.
Qui a eu un Blackberry ici ?
Non.
Oui,
non.
Il y a que vous.
Ah, bah, j'en ai eu un, mais c'était trop compliqué.
Oui. J'ai rien. Je comprenais pas.
Mais ceux qui aimaient ça, ils aimaient vraiment ça. Il y avait des addicts. Hein. Ah,
oui, Barack Obama avait remué ciel et terre pour ne pas se séparer de son Blackberry lors de son arrivée à la Maison-Blanche. Ouais. Et ceux qui étaient chargés de la cybersécurité avaient vraiment tout fait pour qu'ils s'en séparent. Mais ça y est, c'est fini. On vient de débrancher les Blackberry, prisés par les milieux d'affaires, adulés par les célébrités. Il y avait un petit clavier qui n'a pas résisté finalement à la concurrence.
Christian ?
Non, des écrans tactiles, évidemment. Oui, L'iPhone
tactile a tout changé. Hein.
L'iPhone a tué le Blackberry.
Mais qu'est-ce qu'on mettait dans ce Blackberry ? En fait, c'était pas seulement un téléphone.
C'était un petit clavier,
un ordinateur.
Bah,
Blackberry, Raspberry,
c'était un iPhone. C'était un iPhone.
Oui, en fait, Apple a gagné.
J'ai vu le premier iPhone arriver. J'étais dans l'avion, je revenais des États-Unis. C'était le tout premier. On l'avait pas encore en France. Et je me souviens, j'étais émerveillé comme une petite.
Ah ouais, comme la première bite. Comme la première bite.
Oui, et j'ai touché
c'est
pareil.
Tactile, mais c'est tactile bon,
moi,
aussi.
J'ai connu le premier, moi, j'ai connu le premier téléphone avec l'opératrice. Il y a très longtemps.
C'est vrai, que maintenant, on est blasé. Mais moi, je me souviens, j'étais émerveillé dans l'avion. Avec ce truc, tu te rends compte, mis sur le dos comme ça glisse.
Ceci dit, quand j'étais petit, ça va me vieillir, mais mon téléphone, c'était Bernie 7530.
Non, c'est vrai. T'as connu ça, toi, avec les noms des endroits.
Et
où...
Laurent aussi, je pense.
Non, moi, on n'avait pas le téléphone. Non.
Ah, vous aviez même pas le téléphone.
Non, c'était un pauvre caillou.
Il ouvrait la fenêtre et il criait.
Mais non, mais je vous jure.
Il avait des pots de yaourt.
Mes parents ont eu le téléphone. Bah oui. J'avais 15 ans. Avant mes 15 ans, j'ai jamais eu.
Ah bon ? Mais comment vous
connaissiez ? Il fallait un an d'attente pour avoir le téléphone.
J'allais à la cabine téléphonique.
Oui,
bah oui, l'ancienne.
Quand j'étais en HLM, en tout cas, on n'avait pas le téléphone.
J'étais en HLM aussi, nous.
Bah oui, après. Pendant 14 ans, j'ai jamais eu le téléphone. Non,
et après, vous leur avez fait installer.
Et c'est d'ailleurs ça qui était drôle, c'est que ma mère notait la valise RTL alors qu'on ne pouvait pas nous appeler. Je vous jure que c'est vrai.
Super mignon.
Ah, oh, ça c'est beau. Ah, oh, c'est beau.
RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
C'est Alexandre qui nous appelle depuis Saint-Fort. Mais c'est où Saint-Fort, Alexandre ?
Alors, Saint-Fort, c'est en Mayenne, c'est à côté de Château-Gontier.
Ah, oui. Les Maldives de la France.
Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe.
Bonjour Alexandre.
Bonjour Alexandre.
Ah, j'espère que vous êtes prêt à tout entendre. Que faites-vous dans la vie ?
Moi, je suis cuisinier.
Cuisinier dans un restaurant, dans une entreprise ?
Non, dans une entreprise, l'entreprise de Longchamp, pour ne pas la nommer, les sacs à vin.
Les sacs à vin ?
Ouais, moi, c'est mon sac à main.
Les sacs à vin, vous êtes alcoolique ?
Non, vous travaillez à la cantine de chez Longchamp, quoi.
Alors, c'est pas exactement la cantine, moi, je fais à manger pour les cadres, en fait, pour les
cadres. En revanche, on vous entend très mal. Je ne sais pas si vous avez mis le haut-parleur, si vous avez encore un Blackberry, peut-être.
Pas du tout. Non, je suis sur iPhone, mais pourtant, moi, je vous entends bien.
Ah oui, alors vous êtes loin ou changez de pièce.
Monte sur une chaise.
Faites quelque chose.
enlevez ce vibromasseur.
Ça fait un bruit de perceuse.
Est-ce que c'est en Bluetooth maintenant les vibromasseurs ?
Vous êtes chez vous au travail là, Alexandre ?
Non, je suis dans ma voiture pour rien vous cacher.
Ah bah voilà !
Ah bah ouvrez la fenêtre.
Ferme les fenêtres.
Arrêtez-vous, changez de rue, changez de voiture, faites quelque chose. Bon, Alexandre, de toute façon, c'est surtout mes camarades grosses têtes qui vont parler. Il s'agit de les écouter. Vous savez bien, il y a des fake news, il y en a 5, et une seule vraie info sur les 6 informations données. Vous connaissez le principe, et vous allez peut-être partir, cher Alexandre, ça y est, on vous entend mieux, dans un magnifique hôtel, un 5 étoiles, l'hôtel des Trois-Vallées, c'est une des plus hautes stations d'Europe, c'est à Val Thorens, c'est pour 2 personnes, véritable cocon de douceur, jacuzzi, sauna, hammam, espace wellness, un restaurant, l'Olympiski. Allez découvrir cet hôtel de charme sur hôtel3vallées.com. Mais pour ça, évidemment, il faut être perspicace et bien écouter les informations. Attention, une seule vraie info. On commence par Bernard Mabille.
Après avoir ressorti le Karcher de la cave, utilisé le travailler plus pour gagner plus, Valérie Pécresse devrait annoncer demain qu'elle va épouser Carla Bruni en deuxième mariage.
Jean-Fi Janssen.
Oui, le salon de l'agriculture aura bien lieu cette année à partir du 26 février prochain, mais avec un protocole sanitaire très strict. Les vaches, les moutons et les chèvres devront porter un masque en intérieur comme en extérieur. Les poules devront présenter un pass vaccinal à jour. Et c'est Karine Le Marchand qui prendra elle-même la température des agriculteurs à l'entrée du salon.
Max Boublil.
Olivier Véran passerait tous ses vendredis soirs à faire la fête à Londres avec Boris Johnson. C'est pas vrai, mais c'est Jean-Michel Blanquer qui nous a demandé de le répéter.
Sébastien Thoen.
Une femme vient d'être condamnée à de la prison avec sursis et 300 euros de préjudice moral parce qu'elle diffusait du Michel Sardou en boucle pour se venger de son mari. Il ne s'agit pas de Pascal Praud.
Christine Bravo.
Anna Cabana, Béatrice Schoenberg, Léa Salamé, Christine Ockrent, Anne Sinclair, Valérie Trier-Villers, Marie Drucker et Thomas Otto vont lancer une nouvelle émission de débat politique qui s'appellera On n'a pas couché.
Élise Moon pour terminer.
Et enfin, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, vient d'annoncer qu'il acceptait une figuration dans mon prochain film, Du Cobu à Ibiza.
Alors, à votre avis, Alexandre, qui a dit la vérité ?
Bon, Élise Moon, déjà, pour le prochain Du Cobu avec Jean-Michel Blanquer, je pense que non, ça va
non,
pas.
On va l'éliminer. On vous entend très mal, hein, décidément, Alexandre. Ouais.
Ah non, je suis
là, on vous entend mieux maintenant.
Je ne bouge plus. Je pense que c'est Sébastien qui a la bonne info.
Sébastien Thoen, une femme qui aurait été condamnée à de la prison avec sursis et 300 euros de préjudice. Eh oui, parce qu'elle diffusait du Michel Sardou en boucle pour se venger de son mari. Ça. C'est la bonne info.
Non mais alors là...
Bravo ! On a tout entendu là.
Ça se passait dans les Landes. Bon, c'est pas la seule chose qu'elle faisait. Hein. C'est à Calennes, dans les Landes, que ça se passe. Elle a aussi coupé le courant. En fait, voilà, c'est l'ex-femme du mari qui, depuis, vit avec une autre femme. Et pour se venger... Comme
elle est devenue goudou.
Quoi ?
Mais non !
C'est le mari qui vit avec une autre femme.
Le mari vit avec une autre femme.
Oui, ça existe des hétéros, Jean-Fi, en France. Il n'y en a pas beaucoup. C'est bientôt la femme, mais ça existe.
Et ils vivent un calvaire. Le couple vit un calvaire depuis plusieurs mois parce qu'elle se venge. Elle a laissé 420 messages. Oh. Elle aura coupé le courant. Voilà. Elle a pris des photos prises à leur insu. Elle aura fait écouter du Sardou à fond des ors à travers la fenêtre parce qu'elle habite à côté de chez eux.
Mais quelle chanson ?
C'est une liaison fatale. Le truc.
Depuis... Mais qui déménage ?
Je comprends qu'il se soit barré. Hein.
Oh, si c'est une femme, c'est pas mal, ça tient.
Il a 71 ans, elle en a 65, elle lui en veut. Elle dit, j'ai fait une demande pour trouver un autre logement, mais pour l'instant, je continue à les voir à travers la fenêtre.
La pauvre, c'est un calvaire.
Oh, remarque, moi je ferais pareil. Hein.
Ah ouais ?
Ah mais moi je ferais pire. Non mais attends, c'est normal. Attends, ils habitent à côté. Donc au moins, il déménage, le gars qui l'a quitté.
Ils n'ont peut-être pas assez d'argent pour déménager.
Quoi ?
Qu'elle leur foute la paix.
Elle leur a coupé le courant parce que le compteur principal est chez elle.
Et bah alors ?
Bah oui !
Alors elle dit, une fois j'ai coupé, une fois, elle a dit devant le tribunal, une fois seulement, j'ai coupé leur électricité, appuyé sur une canne, c'est une vieille dame, elle a dit, on a passé 40 ans avec mon mari. Il a toujours été très violent avec moi, maintenant avec elle, je les vois par la fenêtre, il est droit. Je suis jalouse de ça.
C'est vraiment une histoire pour Julien Courbet.
Je fais exprès de les importuner, ça vous voyez, elle a reconnu.
Ah ouais, ouais.
Je les vois par la fenêtre sans vraiment les regarder, dit-elle.
Bien sûr.
Avec une jumelle.
Le pire, c'est que quand il s'engueule, il vient me le raconter. C'est pénible, je ne suis pas sa psy.
Eh ouais, ah,
c'est du bon sens.
Hein. Mais Christine, t'as raison, invite-la à Froufrou pour qu'elle témoigne. Hein.
C'est une belle histoire quand même.
Bah, oui.
Ça, c'est de l'actu,
c'est
hein, Alexandre.
C'est assez impressionnant.
Bon, alors Alexandre, vous avez changé de téléphone, de voiture, mais en tout cas, on vous envoie quand même votre bon. Bravo. Une question pour Grégory Gimier, qui habite à Velin, dans le Nord. Qu'est-ce qu'un siège Martin Baker ? Qu'est-ce qu'un siège Martin Baker ?
C'est un siège enfant, un siège voiture.
Un siège voiture.
Pour les rallyes, non ?
A priori, c'est plutôt pas des sièges voitures, même si ça a pu exister aussi dans les voitures.
Alors, c'est la façon dont il est travaillé ?
Des sièges bébés ?
Un siège bébé, non.
C'est la façon, le matériau ? Genre, c'est en cuir particulier ?
Non, c'est pas le matériau.
Est-ce que c'est un rapport avec Joséphine Baker ? Non.
Pas du tout.
C'est une forme de siège.
C'est un siège qui se met dans un endroit particulier.
Ça peut se mettre dans différents endroits.
Est-ce que
mais...
Pour les jeux vidéo.
Les jeux vidéo, non. Qu'est-ce qu'un siège Martin Baker ?
Ça se met dans une voiture ou pas ?
Dans une voiture, ça peut, je vous ai dit.
Ah, on tient à deux dedans !
Mais a priori, ce n'est pas fait pour les voitures.
C'est
mais
pour
ça
les bébés.
Peut. J'en ai déjà vu dans des voitures.
Ah. Et vous en avez ?
Non, moi, j'en ai jamais...
Et pourquoi ?
Ah, quoique, dans ce métier... Il y en a partout.
C'est éjectable. Ah, éjectable.
Un siège éjectable. Bravo. Bonne réponse. Bah oui, c'est plutôt dans les avions, hein, oui. Normalement, les sièges éjectables.
Il y en a dans les avions.
Bah, oui, bah, c'est pour ça que je suis arrivé ici.
Regarde sur quoi.
On passe au-dessus, mon chéri.
Mais tous les passagers ont un siège éjectable.
Non, que les pilotes, hein, les autres, on s'en fout.
Les sièges Martin Baker ont déjà sauvé la vie de plus de 8000 pilotes, vous voyez, quand même.
Mais c'est dégueulasse. Alors attends.
Mais pas les avions, pas les Boeing, pas les Rafales.
Pas les avions de ligne.
Bah oui, sinon,
avions de guerre.
Pas du stable sur le plafond.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de siège éjectable à bord des avions de ligne.
Non.
Pour qu'il y ait un siège éjectable, comprenez, chère Christine, qu'il faut qu'au-dessus de votre tête, vous puissiez passer.
C'est libre.
Si vous avez un siège éjectable.
C'est dingue.
Et qu'il y a un plafond.
Il y a toute la rangée qui
va avec. C'est pour ça que Boeing 747.
Mais oui, Christine, pas toi, pas maintenant, pas alors que tu es au début de ta carrière.
Mais dans les voitures, en revanche, James Bond, par exemple. Vous me demandiez s'il y en avait dans les voitures. Alors, bah oui, dans la voiture de James Bond, il y a un siège éjectable, par exemple.
Ici, ce sont des sièges éjectables.
Absolument.
Ah bah oui. Regarde là où t'es assis, Max.
Christine Bravo a été éjectée pendant 3 ans.
Ah ouais,
elle s'est éjectée toute seule. Hein.
Et ça l'a emmenée loin.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Moi, j'ai lu dans Téléstar, on ne savait pas trop.
Elle a triché. C'est à côté d'elle.
Elle a triché ?
C'est parce qu'elle a triché.
Oui, elle a regardé son téléphone.
Elle s'est fait virer pour ça.
Mais non.
Elle a triché.
Ah ouais, c'est cher. T'as, tu payes cher dès que tu triches.
Mais, très mais en même temps, pendant 3 ans, vous voyez, elle a retrouvé l'amour. Elle a rencontré un terrain. Ça a été bénéfique pour elle.
Tu t'es construit
pour nous aussi.
Vous savez, bizarrement, dès qu'on s'éloigne, il m'arrive que des choses bien.
Ben voilà. Pourvu qu'elle le retienne. C'était comment d'ailleurs en Thaïlande ? Vous êtes allé où en Thaïlande ? Puisque
partout.
Là, vous revenez après un mois d'absence quand même.
Partout.
Oui, un mois, oui.
Je suis parti un mois, tu le sais que je suis parti un mois.
Ah oui, je le sais bien que t'es parti un mois.
Ah oui.
Mais qui s'est occupé de votre péniche pendant tout ce temps ?
Je vous le demande.
J'en fie. Et de son pénis ?
Et moi, je veillais sur la péniche.
Ça, t'as veillé, ouais.
Mais t'es resté combien de temps dans cette
péniche ? Mais pas longtemps, j'ai dû passer une soirée sur la péniche.
T'as eu le temps de la massacrer.
Mon Dieu, mais on va m'en parler pendant 15 ans.
Non mais c'est marrant, de vieilles qui s'embrouillent.
Non, cette péniche, mais je veux la torpiller, la péniche, elle va couler absolument.
J'en avais trop dit, qu'est-ce qui s'est passé, Christine ?
On ne sait pas, parce qu'il n'était pas là.
Ah ça, je confirme. Parce qu'il était avec moi aux États-Unis.
Voilà.
Il a
juste prêté les clés à ses amis délinquants.
Je n'ai pas d'amis délinquants. Non.
Ah ouais.
J'ai voulu bien faire. J'ai été trahi des deux côtés.
Deux côtés.
Oui, j'ai. Bah oui,
en tout cas.
Ouais, parce que quand tu m'appelles à New York à 6h du matin et tu me dis ouais, t'es un délinquant, t'as prêté la péniche à n'importe qui, fais n'importe quoi. Et que surtout, madame, t'as appelé Laurent Ruquier avant pour
Oui, et moi, elle l'a appelé à 6h, mais moi à 5h30. Comment tu peux. J'ai rien compris, je me réveillais.
Alors arrêtez,
Je me réveillais.
Est-ce qu'on peut préciser
12 heures de décalage entre la Thaïlande et New York. Moi, je m'apprêtais à passer au 1er janvier, puisque en Asie, évidemment.
Bah, pas en Asie, le continent ou le mouvement
avant,
progressiste.
Donc ça faisait.
Obsession,
il était.
Hein.
Il était 22h en Asie, donc 22h moins 12, ça fait combien?
Allez, Christine, on va te servir un verre et on n'en parle plus.
Quelqu'un pour repasser la Suze à
22h moins 12
hey. Ah, ça fait 10, quel est con.
Mets-lui un...
En tout cas, elle me réveille, elle me dit...
Non !
Oui, vous me réveillez.
Tu étais au petit déjeuner,
non, menteur. Oh, il est descendu
vous
en
êtes un menteur.
Ah, j'étais pas au petit déjeuner,
dans ma chambre.
Non, oui. Vous m'avez dit, je ne peux pas vous parler, il y a du monde.
Il est venu me chercher en chemise de nuit au petit déjeuner.
Le monde.
Ça, j'ai trouvé une excuse pour raccrocher au bout de 5 minutes. Mais il n'y avait personne, je me réveillais. Et j'entends, hey, comment tu peux être ami avec un connard pareil?
Non.
Je vais passer les clés de ma péniche. Et puis il y a du monde sur ma péniche.
C'est faux. Mais qu'est-ce que vous êtes...
Mais tu as raison, Christine.
Tu m'inventes une histoire tous les jours. Tu m'as dit que mes copains, ils avaient jeté sur ton miroir dans ta chambre.
Eh ben la voilà,
Christine,
ça y est.
Pas prêt.
Tu ne reconnais pas l'Ajax vitre.
Elles sont mâches, hein, les coulisses du showbiz.
J'ai aucun respect pour une vieille dame qui a mis 40 ans à acheter une péniche. Qui ressemble à un camping-car, il paraît, en plus. Avec deux bouées sur le côté.
Non, mais moi,
c'est
je
un
comprends.
Manque de respect.
Moi, je comprends. Quand Christine m'a appelé, je lui ai dit, tu n'aurais jamais dû confier tes clés à Jean-Philippe.
Et, oh, surtout,
la question, c'est pourquoi t'as un miroir chez toi?
Ah oui, puis il est bien devant le lit.
T'es inconsciente.
T'es folle.
Il est bien devant le lit. Hein. Il y a plein de nœuds marins autour.
Mais c'est vrai. Comment
tout est faux.
Mais pourquoi on confie ses clés à quelqu'un qui part?
Mais parce qu'il m'avait pas dit qu'il partait.
Je partais. Non, elle partait un mois. Un mois, c'est long. Hein. Donc, et moi, je partais quelques jours à New York, six jours.
Ah oui.
Mais j'ai envie quand
voilà,
tu croises.
C'était juste une petite période. Et donc, je gardais la péniche pour la période.
Mais ne donne pas les clés au frère Kouachi non plus.
Ça partait d'une bonne intention. Comme je savais que je partais en voyage, ces 6 jours, je me suis dit, pendant 6 jours, personne ne pourra veiller sur la péniche ou donner à manger à ces oiseaux de merde. Il a filé mes clés.
Oh, Hells Angels.
J'ai demandé à un ami qui travaille juste à côté dans un restaurant s'il pouvait venir de temps en temps jeter un œil sur la péniche. Je lui ai dit, puisqu'elle me l'avait dit, qu'il pouvait dormir une nuit dessus. Et je lui ai dit aussi j'avais dit à Christine Bravo à qui j'avais confié les clés, et je t'ai prévenu. Je t'ai pas dit, je suis parti.
Un certain Nordal Hollandais.
Ouais, voilà.
Très sympa.
Voilà, c'est tout. Et je suis parti à New York, voilà. Et il s'avère qu'il a fait une fête en dedans. Il a fait une fête sur la péniche.
Non, il a pas fait qu'une fête. Il a dormi dans mon lit, il a fumé,
Non.
Ça sentait le tabac.
Mais c'est ton dentifrice. Parce que non.
Non, mais Jean-Philippe.
Il a peut-être pas respecté le fait.
On avait dit qu'on n'en parlerait pas.
C'est dégueulasse.
Ah, c'est ce qu'a lancé le truc.
J'ai rien lancé.
Oh, dans les toilettes, il a pas mis sa colline.
C'est Laurent Vicieux qui a lancé le sujet. Si.
Vous
avez fait croire que vous n'étiez pas au courant alors que vous savez très bien ce qui s'est passé.
Bah, forcément, il l'a appelé à New York.
Mais parce que le mec qui a éjaculé, c'est moi, merde. Voilà.
Ce qui est beau, c'est de voir que l'amitié perdure quand même.
Ouais, attends, l'amitié perdure, attends, tiens. On se contient par amitié pour vous, mais on se regarde pas depuis le début de l'émission. Enfin, c'est pas qu'on se regarde pas, c'est que dès que je le regarde, il baisse les yeux.
Vas-y, c'est tort. Je n'ai rien fait de mal, madame.
Sérieux, tu repars quand? Parce que moi, j'ai un pote, là, réhabitant, il voit le dépanner.
Ça a arrêté.
Non, mais sérieux, c'est un mec comme ça, c'est un super pote comme le serveur de Jean-Philippe, hein, il fera rien de mal.
Oui, il ne fait rien de mal.
Il y a une plante rudérale qui est en train de pousser, tiens.
De toute façon, je fais faire un
quand
test.
Quand je pense que l'invité mystère entend tout ça, j'ai honte.
Putain, oui.
La valise dans un instant.
RTL. La valise.
Je crois qu'on va confier la valise RTL à Jean-Philippe Janssen. Ne lui confiez pas vos clés, mais en revanche. En revanche, la valise, vous pouvez lui confier.
Hey, j'aime bien la valise.
Et on va reconstituer un duo d'amis fâchés. Allez. Christine, un numéro pour Jean-Philippe, peut-être.
Le 2.
Je vous remercie vivement.
On va appeler Jonathan Colson. Monsieur Colson habite Pommiers dans le Rhône.
Allez, Colson Pommier.
C'est parti, ça a sonné chez Jonathan Colson. Non, mais on a crevé l'abcès, comme ça on est
oui,
tranquille.
Oui, il y a plein de pus.
Non, il fallait en parler, autrement ça aurait duré. Comme ça, il y aurait eu un malaise pendant des semaines et des semaines.
Oui, oui.
L'affaire est réglée comme ça.
Je m'en fous, je vais faire un test ADN. Si oui, c'est toi, ça va ouais. chier.
Ouais. Allô ? Allô, monsieur ? Allô ? Monsieur Colson ? Vous êtes Jonathan Colson ?
Oui.
Et vous habitez bien Pommiers, Jonathan ?
Exactement.
Eh ben, ça me fait plaisir alors de vous entendre. Si vous savez qui c'est que c'est ?
Eh ben, oui, on dirait.
Ah, on dirait qui ? Il va dire l'autre, là. On dirait qui c'est ? Madonna, c'est ça, c'est Madonna.
C'est un homme...
J'ai pas votre nom, mais je sais que vous êtes un humoriste ch'ti que j'adore.
Ah oui, j'ai Jonathan.
Et du coup, et c'est les grosses têtes qui vous appellent.
J'ai un ami très fiable.
Jean-Phi Janssen, ça vous dit quelque chose ? Voilà.
Merci, monsieur Ruquier.
Mais je vous en prie, monsieur Colson. À votre service. Moi, on peut me faire confiance. Je suis là, je suis pour la paix des ménages.
Oh que oui. Oh que oui.
Eh bien, ravi de vous entendre.
Oh ben, et moi donc, Jonathan. C'est où Pommiers, exactement ?
Et c'est dans le Rhône, au-dessus de Lyon.
Au-dessus de Lyon. Monsieur Janssen a une question fatidique à vous poser.
Est-ce que vous savez, Jonathan, ce qu'il y a à l'intérieur de la valise ainsi que son montant ?
Ah, j'ai pas tout. Je sais qu'il y avait 1082, Non, j'aurais pas tout.
Ah, ben c'est vrai, parce qu'on n'a rien ajouté depuis hier, quand même. On a ajouté quelque chose hier.
Il y a un miroir. Faut bien
reconnaître.
Hier, en fait, j'écoute les podcasts et le podcast n'était pas en ligne, justement, celui d'hier.
C'est la faute de RTL.
Alors,
si vous avez les choses jusqu'au mardi, je vous prends la valise. Enfin, je veux dire, je vous.
Je crois que j'ai rien. Hein.
Oh la vache.
Non, j'aurais pas la mémoire. J'avoue que l'émotion va m'empêcher de donner tout. Mais il y avait 1082 euros.
Oui, ouais. Ça c'est vrai.
Il y avait quelque chose de Monsieur Chamfort.
Oui, quelque chose de Monsieur Chamfort. Pas un slip, hein, un album.
Ouais. Non, il n'y a pas un slip éléphant de Monsieur Plaza.
Ah oui, je vois que vous écoutez bien.
Ah oui, on voit les sons.
Et puis quoi d'autre ?
Il y avait un week-end, mais je ne sais plus où, malheureusement. Oui. Ah non, c'est trop flou, je suis désolé.
Ah oui, dommage. C'est un peu confus tout ça, effectivement. Exact. C'est flou, comme vous dites. Ben, ce sera une montre RTL, alors.
Eh ben, avec plaisir, c'est très gentil.
C'est déjà pas mal. Faites quoi dans la vie, Jonathan ?
Je suis chef des ventes.
Chef des ventes, mais dans quel genre de vente ?
Et dans les poissons d'aquarium.
Oh, ça alors !
Ah, c'est génial ! D'eau de mer ou d'eau douce ?
Les deux.
L'autre sur sa péniche, elle a des poissons d'aquarium. Je m'en dis.
Ils sont morts. Mes poissons, il les a empoisonnés.
Ah vrai, je les ai nourris.
Il y en avait deux rouges.
J'en faisais des tartes.
Et tu sais ce que t'as ? Il y en avait deux rouges et un jaune. Je suis rentré, il y avait deux jaunes et un rouge. Tu peux m'expliquer ?
Sérieux, fallait s'occuper des poissons aussi.
Les poissons, les oiseaux.
Alors,
elle a des oiseaux qui sont en cage, mais elle a des oiseaux qui vivent comme ça. Ça chie partout là, dans l'appartement. Oh.
Et après, elle dit que c'est vos amis.
J'avais deux oiseaux apprivoisés. Depuis que je suis rentré, ils sont sous le canapé, ils bougent plus.
Ils étaient très bien, ils étaient toujours avec moi sur mon épaule, tout ça. Ah. Et ils me parlaient, ah oui, je faisais comme dans Blanche-Neige, je faisais, allez,
tu
oui.
sais quoi ?
Ils m'amenaient ma robe le matin, comme ça, là.
Ils m'ont tout raconté.
Vous êtes toujours là, Jonathan ?
Oui, toujours.
Désolé hein, pour ces petites querelles familiales. Mais je vais vous envoyer une jolie montre RTL et puis je vais ajouter dans la valise, attention, pour tous ceux qui peut-être gagneront dans les jours qui viennent, une barre de son. Alors, une barre de son, vous voyez ce que c'est
Oui, ça se passe sur les télés.
C'est pas pour les oiseaux, pour qu'ils mangent. Hein.
Ouais.
C'est une barre de son Denon, de la marque Denon.
Ah, super bien. Marque.
Vous connaissez cette marque
Oui, bien sûr.
Alors, voilà,
très bonne qualité.
Une barre de son Denon Home 550.
Ah, c'est bien,
un modèle haute performance conçu avec 9 haut-parleurs intégrés.
Oh
ça sublimera vos films, vos séries, puisque vous aurez ainsi un son surround 3D enveloppant...
Même Lupin sur Netflix.
Enveloppant Dolby Atmos. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire.
Ah, l'Atmos, c'est de la technologie, oui.
Ah oui, c'est bon, voilà. Bien plus qu'une simple barre de son, elle fait également office d'enceinte connectée Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay avec Amazon Alexa intégré.
Ah oui.
Ah oui, oui, ça c'est pour les trucs que vous commandez, ça obéit.
On peut écouter par exemple l'album d'Elysée Moon dessus.
Ah oui, oui.
Ah, il refuse.
Si on refuse de le chanter. J'ai envie de vous.
Ah non, 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 non,
je vais voir.
Déjà, il a perdu la valise.
Au moins, voyez-vous, rien ne vaut le vous.
Eh ben, ça a pris 7, les poissons sont morts sur la
piste. Cette barre de son diffusera toute votre musique sans fil, des sensations comme au cinéma ou au concert, grâce à la barre Denon Home 550, récompensée, il faut le dire, comme étant la
c'est
meilleure...
C'est pas Home, c'est Home, hein, excusez-moi.
Home,
vous
home.
Avez dû confondre.
Oui, oui, oui.
La barre Denon Home,
home,
récompensée comme étant la meilleure barre de son de sa catégorie par un jury d'experts.
Ah oui, wow.
Dans la valise RTL, retenez juste une barre de son Denon Home 550. Au revoir, Jonathan.
Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL.
Allez, on va changer d'ambiance si vous voulez bien et de sujet parce que notre invité mystère n'a que faire de vos querelles familiales et amicales, monsieur Janssen et madame Bravo. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous m'entendez bien?
Je vous entends très bien.
Ah, c'est une comique, c'est là-dessous.
Vous êtes un homme?
Trop bien, peut-être.
Vous êtes un homme?
Oui.
Est-ce que vous êtes fan de réseaux sociaux?
Non.
Est-ce que vous avez quelqu'un à qui vous pouvez confier des clés, vous?
Oui.
Vous voyez, il y a des gens qui ont des vrais amis.
Est-ce que vous aimez chanter sous la douche?
Oui.
Mais est-ce que vous êtes chanteur?
Non.
Voici un premier indice musical.
À la Miaou, c'est tellement plus romantique. À la Miaou, on fera les cartes sans fou. À la Miaou, tous les cœurs sont en pique-nique.
Ah, c'est un premier indice un peu difficile, mais vous le comprenez, vous, cet indice, invité mystère.
C'est Raymond Ventura.
Est-ce que c'est l'orchestre de Ventura?
Oui, mais c'est la chanson qui compte, n'est-ce pas, invité mystère?
À la Miaou.
Oui.
C'est un titre.
Ah, c'est un titre, effectivement. Ah. Ça correspond à un titre dans, on va dire, la biographie de notre invité mystère.
Ah, ça y est, j'ai compris.
J'irais même jusqu'à dire la filmographie. Je vais aider un peu mes grosses têtes.
Vous avez joué dans Le Chat. Vous êtes Simone Signoret.
Exactement.
Non, c'est Jean Gabin.
Quelle horreur, ce film.
On vous connaît depuis plus de 10 ans, invité mystère.
Oui.
Vous êtes beau mec.
Ah oui.
Vous êtes comédie et tragédie ou juste comédie?
Les deux.
Un comédien qui peut faire pleurer, qui peut faire rire. Voici un deuxième indice musical.
Si j'étais riche, si j'étais riche, moi. Hey, attiens la charrette.
Ça, c'est un autre film et c'était pour faire rire celui-là, invité mystère, on est d'accord.
L'autre aussi.
Et oui.
Est-ce que vous faites rire, vous êtes moche.
Vous appartenez à une famille de cinéma?
Oui.
Elysée Moon propose Gérard Darmon. Êtes-vous Gérard Darmon?
Non.
Ah, bah tant mieux.
Max Boublil vous a identifié. Bravo, Max Boublil.
Pourquoi avec.
Sébastien Toen lui propose Didier Bourdon. Est-ce que vous êtes Didier Bourdon?
Non.
Ok, d'accord. Est-ce que vous êtes connu depuis plus de 20 ans?
Oui.
Jean-Phi Janssen vous a identifié aussi. Bravo, Jean-Phi. Voici encore un indice musical. Ça, c'est un air filmographique, n'est-ce pas, invité mystère?
Oui.
Est-ce que mes camarades vont être aidés par cet indice?
Je n'en sais rien. Invité mystère, est-ce que vous portez une perruque parfois dans vos films?
Ça m'est arrivé, oui.
Vous avez des cheveux ou vous avez une calvitie
Une calvitie.
Elysée Moon, pensez à Cadmérade. Êtes-vous Cadmérade?
Oui.
Ah, c'est pas plus mal.
Bernard Mabie, Bernard.
Oh, quel enfant. C'est incroyable.
On adore Cadmérade.
Ouais.
Bernard Mabie vous a identifié. Bravo. Non, ah non, d'ailleurs, Bernard, on n'est pas le bon prénom. Ah. Mabie, bon nom, mais pas le bon prénom. Je suis désolé.
C'est pas Pétoula Clark, c'est Richard Clark.
Mais bon.
Est-ce que vous avez eu des Césars?
Oui.
Ah ouais?
Sébastien Toen proposait Guy Marchand. Êtes-vous Guy Marchand?
Non.
Encore un indice.
Bravo, chanterai les mains tendues. Bravo, chanterai les bras en croix. Bravo, chanterai le temps venu. Un soleil dans le cœur, un sanglot dans la voix. Là devant la foule, il chanterait. Comme un oiseau libre, il chanterait. Et toute la foule sifflerait, et Rimbaud chanterait.
Rimbaud chanterait, ça c'est votre actualité, invité mystère, n'est-ce pas?
Oui, je ne la connaissais pas, cette chanson-là.
Ah, c'est une chanson de Michel Delpech. Bernard Mabie, ça y est, a retrouvé le prénom.
J'ai eu du mal.
Le bon prénom.
Est-ce que vous avez joué souvent avec les mêmes acteurs?
Oui.
Voici encore un indice.
Ouais.
Ben, si vous voulez des légendes, bureau suivant, j'ai envie de dire, n'est-ce pas, invité mystère?
Ah,
Sébastien Toen pense à Daniel Auteuil. Vous n'êtes pas Daniel Auteuil, Elise Moon.
Est-ce que vous avez soutenu Ségolène Royal?
Christine Bravo vous a identifié. Bravo, Christine. Et si on écoutait notre invité mystère chanter? Ça serait une idée, ça. Peut-être ça va aider Monsieur Semoun. Ouais. Il n'y a plus que lui, bah, hein. Et Monsieur Toen. Il manque deux grosses têtes encore. Écoutez-le chanter.
Monseigneur l'astre solaire, comme je ne l'admire pas beaucoup, m'enlève son feu ou mette son feu, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous.
Vous chantez bien, invité mystère.
C'est dingue.
Vous jouez mal.
Non, mais il n'a pas une tête à chanter bien.
Et en tout cas, ça y est, hein, Sébastien Toen vous a identifié aussi.
Il en faut bien qu'il ne le sait pas. Enfin, j'ai jamais vu le bureau des légendes.
Monsieur, c'est un super acteur.
Enfin. Ah, oui, je suis sûr que c'est un super acteur.
Pas Kassovitz, l'autre.
Vous voulez encore un dernier indice, une dernière chance, merci. Monsieur Semoun. Écoutez, alors,
j'ai honte, hein, pardon.
C'est pas facile, parce qu'il paraît que cette chanson a été coupée au montage dans le film. Mais peut-être quand même alors, ça va vous dire quelque chose.
Gouin ta grand-mère, c'est une gouin ta grand-mère.
Mais c'est Bigard.
Gouin ta grand-mère, c'est une gouin ta grand-mère.
C'est très drôle.
Chatte dans le miroir, j'ai vu ta chatte dans le miroir. Chatte dans le miroir.
C'est le bureau des légendes, ça ?
J'ai vu ta chatte
non,
dans le
c'était
miroir.
Dans un film avec Bernard Campan, avec Gérard Darmon et Marc Lavoine.
Ah, le cœur des hommes.
Puisque notre invité mystère, c'est
Jean-Pierre Darroussin.
Jean-Pierre Darroussin, évidemment, qui nous rejoint. Jean-Pierre Darroussin était bien notre invité mystère. Il a une double actualité. Vous le verrez ce soir sur TF1, aux côtés de Mathilde Seigné, entre autres, dans une nouvelle série pour quelques semaines. Deux épisodes dès ce soir. Ce sera pendant trois semaines. Une si longue nuit. On en parlera dans un instant. Ça, c'est la moitié de son actualité. L'autre moitié se passe au théâtre. Et là, on est loin de Gwyn, ta grand-mère, chantée par l'équipe du Cœur des Hommes, puisque c'est Rimbaud en feu que vous jouez au théâtre. Antoine, dans une mise en scène d'Anna Novion, un texte de Jean-Michel Dion. Commençons par ça, commençons par le théâtre, parce que vous êtes seul en scène pour ce spectacle, Jean-Pierre Darroussin.
Oui, j'ai adoré avoir à créer, à lever ce spectacle avec mon camarade Jean-Michel Dion, qui a écrit ce texte pendant qu'on était en train de... On était confinés, vous savez, il y a une petite période où on s'est confiné à un moment donné. Et ça nous a permis de créer ce spectacle. Voilà, on correspondait par mail, il m'envoyait des textes. Parce que d'un seul coup, il s'est mis dans l'idée d'écrire un texte pour moi. Et puis avec Anna Novion, on a pris ce texte et on a essayé d'en faire quelque chose de spectaculaire, un théâtre.
C'est Rimbaud à la fin
C'est Rimbaud, non, et c'est pas à la fin, c'est Rimbaud après la fin. C'est-à-dire que c'est Rimbaud, il n'est pas mort, en fait, personne ne le sait, mais il n'est pas mort il est pas mort en 1891.
Mais si, dans Rimbaud
3. Rimbaud ne meurt jamais.
Voilà, c'est ça, il est de toute éternité, c'est vrai, et donc on est parti de ce postulat de quelqu'un qui est visité par l'âme d'Arthur Rimbaud. En fait, c'est tout simplement un aliéné dans un asile qui se prend pour Arthur Rimbaud, comme d'autres se prennent pour Napoléon. Lui, il se prend pour Arthur Rimbaud. Ça lui permet d'avoir quelques fulgurances rimbaldiennes et de temps en temps même avoir des poèmes qui sortent, mais surtout d'avoir un regard ironique, rageur et parfois désespéré et en même temps joyeux et fantasque sur le monde tel qu'il se déroule après sa mort.
Ça s'appelle Rimbaud en feu, c'est au Théâtre Antoine, c'est à 19h, hein, il faut préciser oui, l'horaire, à 19h, Rimbaud en feu, seul en scène, Jean-Pierre Darroussin. Et alors, ce soir, effectivement, avec Mathilde Seigné, là vous êtes un flic, Jean-Pierre Darroussin, ce soir, si j'ai bien compris.
Oui, un policier marseillais.
Commandant de la brigade criminelle.
Commandant de la brigade criminelle à Marseille, qui a... à résoudre cette dernière affaire avant de partir effectivement à la retraite. Et c'est une affaire qui le touche profondément parce que la scène de crime initiale est très très violente et ce qu'il voit est quelque chose qui le retourne. Et donc il a vraiment décidé de mettre un visage, de mettre un nom sur le coupable et de trouver la solution pour quelque part rendre justice à cette jeune fille qui a été sauvagement assassinée.
Mathilde Seigné, c'est l'avocate dans cette affaire. Et puis, il y a un jeune acteur aussi qui s'appelle Sévid El Alami. C'est ouais, lui qui est le coupable. Chauffeur de taxi improvisé, chauffeur de taxi d'un soir.
Bah pourquoi tu donnes le coupable?
Bah non, oui. Bah parce qu'on le sait dès le départ.
Pas lui, parce qu'elle n'est pas morte, c'est comme Dalida.
On le sait dès le départ, mais il y a quand même une ambiguïté. C'est-à-dire que lui-même ne sait même pas s'il est le coupable ou pas. Et évidemment, la série aussi est intéressante parce que c'est en fait, qu'est-ce qui va se passer pour lui aussi pendant le temps où il est emprisonné et pendant le temps où son avocate essaie de le faire sortir de prison et où le policier essaie de l'y laisser. Mais sa vie va être transformée en prison.
Je dois revenir quand même sur les quelques indices qui ont parfois perdu mes camarades. À la mi-août, c'était pour le film 15 août. Voilà, ah, tout oui. Simplement, oui. Qui a été un énorme bien. Succès. On a entendu « Si j'étais riche,
riche » pour le film « Si ouais. J'étais riche
ben, » voilà, que j'ai adoré. C'est ce qui vous a aidé, ça aussi, ouais, « Si j'étais ouais, riche ». Et oui, film très réussi de Michel Mounz et Gérard Bitton. Après, on a entendu Les Légendes pour le Bureau des Légendes. La musique, la troisième musique qu'on a pu entendre, quand même, il faut le préciser, c'était la musique d'un air de famille.
Famille, oui. Oh,
c'est de la peine.
On vous a entendu chanter « J'ai rendez-vous avec vous ». Et puis, effectivement, cette chanson, vous me confirmez qu'elle a été coupée au montage « Gwyn, ta grand-mère » dans « Le cœur des hommes ».
Oui, à un moment donné, il était question... Mais c'est, en fait, c'est une chanson, c'est Marc Lavoine hein, qui, quand on tourne, voilà, il lui connaît toutes les chansons du répertoire français, de tous les chanteurs. Et quand on tourne, on a tendance à beaucoup chanter avec lui. Et c'est très agréable, c'est joyeux. Et ça, c'est une chanson, « Guantanamera ». Qui est une chanson que les musiciens, pour s'entraîner, tout ça, font avant de démarrer le show, tout ça. Et lui, il a l'habitude de la chanter, mais évidemment, il la transforme pour s'amuser. Voilà. Et donc c'est devenu ça. Et donc, on chantait ça avec lui. Et à un moment donné, on l'a improvisé pendant le tournage et ça a été gardé. Il était question, peut-être, que ça soit dans le film, mais bon... On est resté correct.
Au cinéma, on vous verra bientôt dans Rumba la vie.
Excellent, d'ailleurs.
Nouveau film de Franck Dubosc. Oui, ouais. Bah, c'est bien de vous rattraper, vous, monsieur Semoun.
Bah, oui, mais...
Vous qui n'avez pas reconnu Jean-Pierre Darroussin.
Jean-Pierre est formidable dans le film de Franck.
Alors, c'est vrai qu'on a cité Le cœur des hommes. On aurait pu citer La ritournelle. Évidemment, les films de Daniel Auteuil, La fille du puisatier, Marius, Fanny, Le Havre.
Star Wars, Alf, film... la série.
Non, ouais. Le Havre.
Incroyable dans Alf.
Le
incroyable
dans film d'Aki Korismas. Non, mais écoute, vous me laissez parler un peu, monsieur.
Moi, je connais les à côté aussi. Enfin,
j'ai fait 450 des... films.
Les films de Guédiguian, évidemment. La famille Guédiguian, c'est quand même important. Ah, oui. Le cœur des hommes, on l'a dit. Si j'étais riche. Non, vraiment. Le goût des autres. Il y a quand même tous les films Bakri Jaoui aussi. Mon homme de Bertrand Blier. Un des tout premiers aussi, Psy quand même, de Philippe de Broca, et ce film culte, je suis sûr qu'on vous en parle encore, Mes meilleurs copains, qui reste...
Oui, c'est vrai que ça a marqué une génération.
Qui a marqué une génération.
Qui n'a pas marché à l'époque et qui est devenu culte après. Oui.
Quelle filmographie, Jean-Pierre Darroussin, mais ce soir ce sera à la télévision ou au théâtre à 19h, Théâtre Antoine, pour ce texte sur Rimbaud en feu. ou à la télévision pour cette série avec Mathilde Seigné, Une si longue nuit. Merci Jean-Pierre Darroussin. À demain 15h30 pour d'autres grosses têtes.